Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et culture pop.
Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast qui est un peu un mélange entre pop en stock, balado IC, un peu comme vous voulez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi donc Hélène Després, je vais co-animer, mais surtout passer le flambeau à Manon Barret, qui est une stagiaire ici à Figura pendant quelques mois. Donc, on va parler du roman et surtout de la série Handmaid's Tale. Pour cet épisode spécial transatlantique, comme on en a fait quelques-uns déjà, donc avec des collègues des deux côtés, au Québec et en France. Donc, je vous présente d'abord Manon Barret, qui va animer aujourd'hui, mais aussi le prochain épisode. Donc, elle est doctorante en études culturelles à l'Université de Lorraine au laboratoire littérature, imaginaire et société. Sa thèse porte sur la crise de la procréation dans les dystopies écologiques à l'aube du 21e siècle, dans un corpus plurimédiatique. Elle a réalisé son mémoire sur le male gaze comme regard situé qui superpose les questions du genre et d'espèce. Donc, je vais passer la parole à Manon qui va vous présenter nos autres intervenants. Puis après ça, on va s'échanger un peu la parole pour l'introduction, pour ensuite continuer. Donc, Manon, je te laisse le micro.
Merci beaucoup Hélène. Donc, bonjour à tous. Donc, pour discuter de cette thématique stimulante, j'ai le plaisir d'avoir quatre partenaires de disciplines différentes à mes côtés, donc ce qui nous permettra de croiser les perspectives et d'enrichir l'analyse de l'œuvre. Donc, Hélène Després est professeure associée et coordinatrice au Centre Figura de l'UQAM. Ses recherches portent sur les représentations imaginaires de la science, sur la science-fiction et les dystopies, autant en littérature qu'en série télé. Maud Lafleur, elle, Yael, est chargée de cours et titulaire d'un doctorat en études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Personne cofondatrice et éditrice aux éditions diverses syllables, Yael signe des textes d'autofiction et des textes universitaires au sein de plusieurs collectifs dont Trouble, Nos Ombres et Mortels, parus durant la dernière année. En plus de siéger sur le comité de rédaction de la revue Moebius, Maud travaille présentement sur un roman à paraître. Hélène Machinal est professeure en études anglophones à l'Université Rennes 2 et membre de ACE. Elle est spécialiste de littérature fantastique, du roman policier et de la fiction spéculative du 19e au 21e siècle. Elle travaille par ailleurs sur les séries télévisées et les représentations du post-humain, plus particulièrement l'imaginaire de la science dans les fictions policières, fantastiques et de science-fiction. Emmanuelle Stock est professeure agrégée, doctorante en littérature comparée sur la science-fiction féminine à l'Université de Rouen et chargée de mission cinéma audiovisuel à la délégation académique aux arts et à la culture. Son travail de thèse porte sur la chair et la voix féminine dans la science-fiction française et étrangère. Et enfin, Louis-Paul Willis est professeur d'études cinématographiques et médiatiques, ainsi qu'UER en création et nouveaux médias à l'UQAT. Aujourd'hui, notre objectif n'est pas d'être exhaustif, mais de soulever des questionnements, des enjeux, des motifs à partir de quelques exemples particuliers. Nous aborderons des thématiques variées et mobiliserons des outils théoriques tout aussi pluriels pour étudier et analyser une œuvre aujourd'hui transmédiatique. Donc, comme l'a dit Hélène, nous allons chacune partager un bout de l'introduction. Donc, l'œuvre romanesque sur laquelle nous allons travailler est le roman The Handmaid's Tale ou La Servante écarlate en français. C'est un roman dystopique écrit par l'autrice Margaret Atwood et publié pour la première fois en 1985, soit il y a presque 40 ans aujourd'hui. Donc, pour commencer, nous allons présenter l'œuvre, son contexte culturel et les adaptations qu'elle a connues pour les auditeuristes qui ne la connaîtraient pas, avant de commencer les discussions thématiques au sujet des œuvres. Donc, je t'en prie, Hélène, je te laisse commencer la présentation.
Oui, donc, à propos du roman lui-même, donc, comme Manon vous disait, qui est écrit par Margaret Atwood, en fait, à plusieurs occasions, l'autrice canadienne a raconté avoir écrit son roman en 1984, donc à peu près un an avant sa parution, alors qu'elle faisait une résidence d'écriture à Berlin-Ouest, emprisonnée par le mur, voyage au cours duquel elle est allée en Pologne et en République tchèque, où elle a constaté les différents usages publics et privés de la langue en contexte totalitaire. Puis elle a poursuivi sa rédaction en Alabama, une autre résidence d'écriture, en plein cœur de la Bible Belt américaine. Donc, cette date de rédaction, en 1984, qui évoque évidemment le roman de George Orwell, certainement à son esprit à l'époque, et les deux lieux très particuliers dans lesquels elle a écrit, presque à l'opposé sur le plan idéologique, mais tout aussi oppressants à leur manière, lui ont permis d'accoucher d'une dystopie vraiment glaçante. Aussi, mentionnons qu'elle publie son livre alors que de vraies avancées pour les droits des femmes, notamment reproductifs, ont été réalisées dans les décennies précédentes aux États-Unis, en la pilule contraceptive en 65, la légalisation de l'avortement en 73 et la position du Equal Rights Amendment, hein, ERA, en 72. Mais surtout, elle est témoin de la violente réaction antiféministe que ces avancées-là ont suscité en retour, entre autres chez les femmes, en particulier la montée de la Moral Majority et l'organisation antiféministe Stop ERA, créée par Phyllis Schlafly-Leavitt, qui est devenue assez célèbre dans le genre de femme militante antiféministe. Dans le contexte, Atwood en vient à se demander par où ces groupes religieux pourraient commencer s'ils voulaient forcer les femmes à revenir dans leur rôle traditionnel. Sur fond de crise du capitalisme tardif, sa réponse économique est d'une simplicité troublante, simplement fermer leurs comptes bancaires. Et une crise écologique doublée d'une crise de la fertilité leur offrirait l'occasion idéale. C'est donc à partir de là que Handmaid's Tale construit sa spéculation. Elle imagine la création de Gilead, une théocratie néo-ludite, patriarcale, inspirée des racines puritaines des États-Unis, centrée en Nouvelle-Angleterre, dans laquelle la population est désormais violemment contrôlée par une élite tyrannique qui a réduit les femmes aux rôles qui leur sont attribués par la Bible, épouses, servantes et surtout mères. Dans le roman, sous la forme d'un témoignage enregistré sur cassette audio et étudié par des universitaires en 2195, la voix de la narratrice, Offred, nous parvient. De manière originale pour une dystopie, elle raconte des fragments de sa vie d'avant dont elle se souvient encore. La révolution, sa rééducation et sa nouvelle vie aliénante d'esclave reproductrice, condamnée à être violée pour procréer. Jamais elle ne mentionne son vrai nom, seulement celui qui lui a été attribué comme servante du commandant Fred, Offred, un des fondateurs de la Nouvelle République. Lorsque le roman s'ouvre, elle en est à sa troisième affectation. Si elle ne tombe pas enceinte, elle sera envoyée aux travaux forcés dans les colonies toxiques. On suit son quotidien de servante, sa vie faite de milliers de petites et de grandes humiliations et violences, avec l'épouse de la maison, Serena Joy, avec le commandant qui la désire, mais aussi avec Nick, le chauffeur aux loyautés incertaines qui devient son amant et le père de sa fille. Elle côtoie aussi d'autres servantes comme Off Glen, impliquée dans la résistance, et se rend dans un bordel où elle retrouve son amie d'enfance. Le roman propose un travail minutieux sur le langage, sa façon d'être détournée par le régime, mais aussi les traces de l'aliénation et de la résistance intime d'Offred dans ce langage qu'elle utilise. Le roman se termine alors qu'elle est emportée par des individus mystérieux qui pourraient faire partie du pouvoir occulte, The Eyes, ou de la résistance, Médée. Son sort demeure toujours incertain. Donc, je termine la présentation du roman avant de laisser la parole à Manon, juste pour mentionner qu'en 2019, Atwood publie une suite hein, de Testaments qui se déroulerait 15 ans plus tard et propose les témoignages de Aunt Lydia et de deux jeunes filles qui pourraient être les filles d'Offred. Mais je pense que nous allons laisser de côté cette suite pour aujourd'hui, en tout cas assez largement. Bon, les enjeux mériteraient sans doute un épisode en soi. Donc, je laisse la parole à Manon. Ben, peut-être que certains d'entre vous en parleront. Je vous laisse évidemment bien libre de le faire. Mais je laisse donc plutôt la parole à Manon pour nous parler des différentes adaptations qui ont été faites au cours des années et qui ont été sans doute encore plus marquantes récemment, en tout cas.
Donc, une première adaptation de l'œuvre en film a été proposée seulement 5 ans après la parution initiale du livre, en 1990. Le film a été nommé lors de deux cérémonies de récompense et a gagné un prix, mais il n'a pas vraiment été un succès. Ce que l'on peut déduire des critiques qui en ont été faites, c'est que le film ne semble pas avoir fonctionné à l'époque du fait d'un public assez réfractaire au message porté par l'intrigue, ce qui n'est pas spécifique au film en lui-même, mais également porté par le roman. Le genre de la science-fiction, de la dystopie et de l'anticipation est en particulier féministe, est encore récent et n'est pas aussi populaire à l'époque. L'un des critiques détracteurs du film, Owen Gleiberman, le qualifie dans Entertainment Weekly de balivernes paranoïaques comme le livre. Malgré le fait que d'une part il s'agit de science-fiction, le but n'est donc pas de créer un récit réaliste, et quand bien même, Margaret Atwood a déclaré avoir intégré dans son récit uniquement des éléments qui ont un jour été vrais quelque part. C'est-à-dire que même si le récit tel qu'il est dans le roman n'a jamais été vrai, il est composé d'éléments qui l'ont été quelque part à différents moments de l'histoire avec un grand H. Le récit a toutefois été adapté en opéra en 1998 et en ballet en 2013, ce qui témoigne tout de même d'un sentiment de pertinence de l'œuvre pour les personnes qui ont cru en ces adaptations et d'une prédisposition de celles-ci à être adaptées, en particulier avec des médiums visuels. Et depuis les années 2010, notamment avec le succès éditorial du roman Hunger Games et de son adaptation cinématographique, le genre dystopique est devenu extrêmement populaire, en particulier auprès des publics adolescents et jeunes adultes. Et cette époque, elle coïncide avec la résurgence de l'intérêt pour la lutte féministe et sa diffusion conjointement à l'avènement des réseaux sociaux tels que Twitter notamment. Un intérêt particulier se cristallise autour des questions d'agression sexuelle avec l'affaire Weinstein et la diffusion du hashtag MeToo à partir de 2017. Ces éléments constituent un terreau fertile pour donner un souffle nouveau au récit de Margaret Atwood, qui conjugue récits dystopiques et questionnements concernant les droits des femmes, les agressions sexistes et sexuelles. L'adaptation télésérielle de la dystopie a été diffusée en avril 2017 aux États-Unis, soit l'année de l'affaire Weinstein et du mouvement MeToo, ce qui a pu contribuer à l'intérêt et au succès de la série et du livre d'origine. La série a été un tel succès qu'elle a été poursuivie au-delà de l'intrigue originale. La série comporte aujourd'hui 5 saisons et est, à l'heure où nous enregistrons, toujours en production pour une 6e et ultime saison prévue pour 2025. Ce succès a eu un rayonnement sur l'œuvre originale puisque, comme l'a mentionné Hélène, l'autrice a notamment écrit la suite intitulée Les Testaments, publiée en 2019. Et la même année, une adaptation en roman graphique a été publiée aux États-Unis. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous intéresserons plus spécifiquement à l'œuvre romanesque originale, ainsi qu'à ses adaptations, et en particulier la série télévisée produite par Bruce Miller depuis 2017. Donc, bonjour à nos 5 participants. Et Maud, il me semblait que tu comptais aborder la question de la stérilité et de l'infertilité dans le roman The Handmaid's Tale. Donc, je serais ravie de t'entendre à ce sujet si tu veux bien ouvrir la discussion.
Mais oui, avec plaisir. En effet, c'est ça. Moi, je comptais me concentrer sur le roman, puis sur la représentation de l'infertilité et de la stérilité. Puis d'abord, je voulais commencer en faisant la différence entre l'infertilité puis la stérilité rapidement. Donc, infertilité qui résulte d'un problème à concevoir un enfant, puis la stérilité qui est en fait une incapacité biologique à le faire. Donc, si ces réalités-là arrivent dans un imaginaire occidental à être soustraites au regard, puis à être vécues comme un échec ou une tragédie personnelle, ça peut pas être le cas dans l'univers dystopique qui est imaginé par Margaret Atwood en 85. La République de Gilead, où la population féminine est aux prises avec un taux d'infécondité sans précédent à cause des changements climatiques. Comme le souligne Christabel Setna, dans la République de Gilead, de nombreux hommes sont également stériles, mais cette connaissance est délibérément occultée. Comme l'explique Offray d'ailleurs, il n'y a plus d'hommes stériles officiellement, il y a juste des femmes fécondes et des femmes stériles, et c'est la loi. Atwood, donc par l'hyperbole, vient critiquer la facilité avec laquelle on blâme une femme pour l'infécondité d'un couple cisgenre hétérosexuel et on absout son partenaire masculin là, de toute responsabilité. Pour remédier à la stérilité des masters ou des commandants et des wives des épouses, on fait appel donc à une servante, une handmaid, soit une femme fertile qui va être violée à répétition, forcée de porter un enfant qu'on lui arrache pour le remettre à ses bourreaux. Déjà, la simple cohabitation d'une femme fertile avec une femme infertile qui serait l'épouse va créer rapidement des tensions. Puis on le voit dans le roman, comme Offred va le dire, donc je cite, J'envie la femme du commandant et son tricot. C'est bien d'avoir de si petits objectifs faciles à atteindre. Qu'est-ce qu'elle m'envie? Elle ne me parle pas, à moins qu'elle ne puisse l'éviter. Je suis pour elle un reproche et une nécessité. Donc, l'échec qui est la stérilité ici n'est plus personnel, n'est plus individuel, il va être social et stigmatisé. Quand Offred dit qu'est-ce qu'elle m'envie, ben, ce qu'elle lui envie, évidemment, c'est sa fertilité, son utilité, le fait de faire autre chose que des mailles de tricot, un projet beaucoup plus grand. Mais en même temps, il y a une autre réponse tout aussi vraie que la première, c'est qu'est-ce qu'elle peut lui envier? Ben, rien, on ne peut pas lui envier sa servitude, on ne peut pas lui envier sa position. Donc, si la stérilité semble invisible, parce que justement, elle ne se voit pas, elle va finir par se mesurer sur un mode assez spectaculaire néanmoins, donc par l'absence de signes, non pas l'absence de fertilité, mais évidemment l'absence de grossesse, qui, elle, va devenir hyper visible dans le roman. Donc, je cite, Une des servantes est très enceinte. Son ventre, sous son vêtement ample, se gonfle triomphalement. Il y a dans la pièce un murmure, un souffle qui s'échappe malgré nous et nous tournons la tête pour mieux la voir. Nos doigts nous démangent pour la toucher. Elle est une présence magique, un objet d'envie, de désir, nous la convoitons. Elle est un drapeau au sommet d'une colline, nous montrant ce qu'il est encore possible de faire. Nous aussi, nous pouvons être sauvés.
Donc, c'est Janine ici qui apparaît comme la preuve de la fertilité collective et puis qui se transforme littéralement en un pôle magnétique. Mais Offred, très rapidement, va avancer qu'elle se donne en spectacle. Hein. Donc, sa présence à elle aussi va devenir un reproche pour Offred et le regard de Janine directement se pose sur l'abdomen de Offred. Et là, je cite encore, donc, là où mon propre ventre repose à plat sous ma robe rouge. Donc, la grosseur du ventre rond et puis la ligne plate de l'abdomen de Offred se font directement en confrontation ici. Donc, les femmes fertiles dans l'univers de Gilead vont être complètement resémantisées, complètement reprogrammées par les autorités qui contrôlent jusqu'à leurs paroles en forçant l'adhésion à un langage absolument ritualisé, Blessed be the fruit, may the Lord open, etc., qui sert à les ramener à leur fonction de matrice. Quand Offred, dont le nom signifie à une lettre près celle qui est donnée, donc quand elle va être chez son maître et qu'elle va tarder à tomber enceinte, évidemment, elle s'inquiète. Toutes les servantes qui ne tombent pas enceintes sont bannies dans les colonies avec les autres unwomen, là où on brûle les cadavres, là où on nettoie les déchets toxiques, là où les déversements et les radiations vont littéralement tuer les servantes et les femmes infertiles à la tâche. Donc, comme l'affirme d'ailleurs Elisabeth Stanke, quand elle tente de faire valoir l'infertilité comme un handicap, l'infertilité féminine va provoquer une grande stigmatisation qui va en fait résulter d'une incapacité à se soumettre aux attentes personnelles et sociales liées au rôle genré. Donc, on est exclu de la catégorie femme quand on est une femme qui ne peut pas avoir accès à la procréation. Et si on considère le handicap selon le modèle social qui veut que les limitations individuelles ne soient pas la cause du handicap, mais bien le manque d'adaptation de la société dans laquelle on se trouve, ben Gilead devient un laboratoire fort intéressant parce qu'il semble en effet que la stérilité y soit seulement handicapante pour les femmes, parce que l'infertilité masculine, elle est complètement contrecarrée par toutes les mesures qui sont mises en place et elle finit par être complètement poussée du revers de la main, alors que l'infertilité féminine, elle, va être si prenante qu'elle va contrecarrer même l'appartenance à la catégorie femme.
C'est super intéressant ce que tu apportes à propos du livre. Puis j'aurais deux choses qui me venaient en tête en t'écoutant. Une par rapport à la série. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est énormément de contenu à écouter. Mais aussi par rapport au réel. Ça. En fait, c'est intéressant dans l'actualité parce que j'ai l'impression qu'on est en ce moment, évidemment, le roman date des années 80, donc forcément les discours ont un peu bougé de ce côté-là. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, le discours s'est déplacé de manière pas moins misogyne, mais est juste devenu différent. C'est-à-dire que c'est plus tant le corps des femmes qui va être mis en cause, c'est-à-dire que c'est pas la fertilité des femmes qui est mise en cause, c'est plutôt leur non-désir d'enfant, d'une part, sujet que tu connais très bien d'ailleurs, je t'ai souvent entendu en parler, mais aussi et surtout peut-être, c'est le corps des hommes maintenant qui est surtout accusé d'être non fertile, mais ce qui se féminiserait en fait. Donc, parce que tout le discours masculiniste qui dit de la baisse de testostérone dans les corps masculins, avec toutes ces thérapies complètement délirantes qui dominent la manosphère. Donc, tout ce discours masculiniste sur Internet qui essaie de contrer cette féminisation supposée des corps masculins qui, eux, seraient en train de devenir infertiles. Donc, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, c'est intéressant, je pensais pas aller là ce matin, mais je pense que ça revient encore à une question d'attente, puis de rôle genré au final, de pression. Je pense que, tu sais, j'irais pas jusqu'à dire qu'il y a plus de regards qui sont posés sur le corps des femmes, parce qu'il y en a encore énormément, puis, tu sais, donc là, ben, la femme a attendu trop longtemps pour son désir d'enfant, etc. Donc, il y a encore plein de reproches individuels qui font du corps des femmes et dans les fictions réalistes, mettons, et dans le courant, et dans la réalité, des échecs individuels. Mais sur cette question-là d'essayer de contrer la féminisation des corps masculins, je pense que c'est quand même quelque chose qui date d'assez longtemps, là. Si c'était pas sur le corps, quand est-ce qu'on parlait des hommes roses? C'était les années 70-80, tu sais. Donc, tu sais, on avait cette idée-là des hommes roses, là, qui étaient des parents ou des papas trop sensibles, là, puis qui étaient presque des mamans, là, puis là, ça devenait trop difficile pour les enfants de s'identifier à d'être élevés normalement, parce que si leur papa n'était pas un papa, mais était une deuxième maman, mais comment on gère ça, tu sais? Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de ce discours-là qui a jamais quitté finalement parce qu'on a arrêté de parler des hommes roses. Quand même, les mentalités ont évolué par rapport aux attitudes qu'on peut avoir, mais c'est vrai que le corps est tellement mis de l'avant en image en ce moment que ben on valorise beaucoup plus l'apparence que la fonctionnalité. Puis peut-être que c'est là la vraie peur, c'est que dans le fond, à force de paraître masculin, de paraître fort, de paraître, ben on devient peut-être infertile, féminin, t'sais, sans poils. Fait qu'il y a peut-être ce jeu-là à force d'essayer de paraître, on finit par enlever toutes les fonctions du corps, les fonctions premières, donc qui devient vraiment un objet à regarder, non plus un corps avec des fonctions justement biologiques, etc.
Ah, c'est un discours un peu paradoxal parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression qu'il y a les deux, tu sais, autant
Mais...
surtout par les partisans d'une masculinité toxique, il y a un peu les deux côtés. Il y a ce corps du paraître, puis en même temps, il y a cet idéal-là, il y a cette idée-là que, oh mon Dieu, le nombre de spermatozoïdes baisse, on est vraiment, c'est dangereux, puis il y a quand même un retour de ce discours-là, puis ça m'amène peut-être à ma deuxième question qui est par rapport à la série. C'est intéressant parce que le roman, j'avoue que ça fait 2 ans que j'ai lu, donc je ne me rappelle pas du détail, là, mais dans la série, autant cette infertilité masculine-là, elle n'a pas le droit d'être dite, autant elle est présente. C'est-à-dire que dans la série, on le voit très bien parce qu'on le voit à plusieurs moments, puis on voit plusieurs formes d'infertilité en plus dans la série, où au début, on a Fred qui est supposé être infertile par sa femme. Finalement, ce n'est pas le cas, mais au point où elle va aller contre les lois d'Iliade, puis forcer June, dans le cas dans la série, plutôt ben, Fred, en tout cas, à avoir des relations sexuelles avec Nick. Justement pour qu'elle puisse procréer, supposant que son mari est infertile, ce qui est quand même un peu scandaleux dans Gilead. Et puis plus loin, il y a d'autres exemples assez intéressants où on a Joseph Lawrence qui est infertile pour des raisons plutôt morales et psychologiques, c'est-à-dire qu'il aime sa femme, il veut pas, il trouve que le système des handmaids est complètement délirant, et puis il refuse en fait de jouer le jeu des séances de viol de viol chaque mois, et donc il est infertile de fait par choix. Et puis il y a même le cas aussi je me rappelle pas son nom, mais il se retrouve dans une ferme à un moment donné, puis c'est une très jeune fille qui est la wife, là, la femme de la maison, et puis elle se fait violer à répétition pour plusieurs personnes, justement parce que son maître et son commandant est trop vieux. Donc là, on présume de l'infertilité à cause de la vieillesse. Donc il y a comme quand même plein de cas qui sont assez intéressants qui montrent qu'il faut contourner les règles pour que ça fonctionne ultimement. Hein.
Mais oui, c'est vrai, puis c'est ça, toute cette manigance avec Nick est d'abord faite dans le secret, parce que justement, le fait de rendre quelque chose illégal fait pas que ça existe pas, puis ça, on le sait très bien, et puis c'est ça qu'on voit, tu sais, donc s'il y a tout un système qui est mis en place pour qu'au final, les hommes puissent continuer de procréer, parce que c'est ça qui est Gilead, au final, sans se remettre en question, sans se poser trop de questions, ben il y a les femmes qui travaillent en arrière avec les subordonnés comme Nick et le chauffeur qui vont faire un peu comme Oz derrière le rideau, tu sais, à essayer de faire que ben, votre système fonctionne pas, mais nous, on n'a pas le choix qu'il fonctionne, sinon c'est notre sécurité qui est mise en danger, donc on va le faire fonctionner pour vous sans briser votre ego. Tu sais, c'est un peu ce que je vois du cas avec Fred. Puis le cas de Joseph est quand même intéressant parce que c'est justement une infertilité qui est absolument pas biologique, tu sais, qui est vraiment juste liée à son refus de participer aux structures, puis à la manière de procréer qui est mise de l'avant dans Gilead. Donc, en refusant de faire la cérémonie, il se coupe aussi, dans le fond, de la paternité qui est, au final, valorisée pas tant pour être le rôle de père, mais pour pouvoir procréer, puis pour pouvoir avoir le plus de gens sous soi possible. Donc, c'est vraiment deux cas sont complètement opposés, mais qui témoignent un peu, le cas de Joseph, pour moi, il témoigne un peu de l'invisibilité sociale. Donc, quand quelqu'un refuse de participer au code d'une société, il n'existe pas. T'sais. Donc, sa fertilité biologique n'existe pas, ne peut pas être prise en compte parce qu'il refuse de la mettre au profit des structures qui sont établies. Ce serait comme une baleine qui ne fonctionne pas sur la même fréquence que toutes les autres baleines, puis qui finalement n'est jamais retrouvée là, par son groupe.
Là, c'est une belle analogie.
Merci beaucoup. Pour continuer, je vais donner la parole à Emmanuel Stock qui va nous parler du déplacement du politique au sacré et au théologique dans The Handmaid's Tale.
Alors, je souhaitais aborder avec vous la question du sacré et du théologique dans La Servante écarlate avec ce motif permanent de l'ambiguïté religieuse. On l'a dit, ce roman dystopique s'apparente à un manifeste féministe qui met en scène un régime totalitaire et ultra-conservateur avec un attachement fanatique à l'idéologie de l'enfantement. Il me semble qu'il y a chez Atwood, et on pourra en discuter ensemble, un balancement constant entre croire et mécroire, qui s'adjoint peut-être à une forme d'hétérodoxie qui interroge davantage le domaine du spirituel que du religieux. Alors, un élément intéressant est à noter, c'est que le roman commence par une épigraphe, c'est-à-dire une citation biblique extraite de la Genèse, qui fait allusion à deux sœurs rivales, Rachel et Léa, toutes les deux mariées à Jacob. Pour rappel, ce dernier a d'abord été contraint d'épouser Léa, l'aînée, sans éprouver d'amour pour elle, et elle devient féconde, elle lui donnera six fils. En réalité, Jacob est amoureux de la cadette Rachel, qu'il parvient à épouser, mais celle-ci est stérile. Et c'est cet épisode biblique, tragique, qui constitue la trame narrative du roman. Le genre de la science-fiction permet alors, grâce à son pouvoir spéculatif, de pousser le scénario à son extrême avec le et si. Le roman présente alors les commandants comme des fils de Jacob, des héritiers qui constituent une secte politico-religieuse qui impose des lois totalitaires. En effet, on l'a dit, La Servante écarlate relate la chute drastique de la fécondité qui conduit à l'élaboration d'une nouvelle communauté avec la République de Gilead. On a alors une classification, et Maud en a très bien parlé, des femmes en fonction de leur rentabilité corporelle. Alors on distingue les femmes fertiles des femmes improductives. Les épouses sont en bleu, les Martha au service domestique et les servantes rouges sont exploitées dans leur chair, c'est-à-dire violées par des hommes de pouvoir. Les rituels, la soumission à un ordre d'aspect monacal montrent la nécessité du profane pour transcender le domaine du sacré. Dans cet univers cauchemardesque, la religion est une entité dogmatique qui va centraliser le pouvoir. Mais la religion devient presque dans le roman un personnage omniprésent. Et en cela, La Servante écarlate est un conte d'alerte, une fable d'avertissement qui propose une satire acerbe de l'exploitation religieuse par le pouvoir. Ce qui est critiqué, ce n'est pas tant la religion que l'usage que l'on en fait, l'aliénation écrasante de l'homme. Et à titre d'exemple, j'aimerais vous citer le passage où le personnage de De Fred se retrouve à prier. Alors d'abord, elle se retrouve à prier par obligation, car les servantes sont étroitement surveillées par les tantes, qui sont des gardiennes tortionnaires et qui ont pour rôle d'endoctriner les femmes. Vous verrez que cette prière fonctionne alors comme une gradation ascendante. L'héroïne plonge d'abord dans la mélancolie des souvenirs passés, qui vont se confondre progressivement avec un état extatique, une communication sensible entre elle et Dieu. Puis, le moment de grâce prend les allures d'un soliloque tragique par lequel De Fred analyse sa condition actuelle. On a alors des temporalités passées, présentes et futures qui se chevauchent dans un tourbillon liturgique, proposant la mise en scène d'une véritable conscience religieuse. Il s'agit plutôt, je pense, d'un sentiment de religiosité plutôt que d'une religion à proprement dite. En cela, la fiction de la fin du monde offre un moment narratif d'intensité, un espace lyrique où la voix s'individualise pour s'extasier sur la foi. Le sentiment de religiosité dans La Servante écarlate devient un outil de résistance à l'anéantissement anthropologique. La foi devient presque un espace de liberté individuelle. Donc je vous lis ce passage. Donc c'est bien De Fred qui parle. Ce soir, je vais dire mes prières. Non plus à genoux au pied du lit, sur le bois dur du plancher du gymnase, avec tante Élisabeth plantée devant les doubles portes, les bras croisés, l'aiguillon à bétail suspendu à la ceinture, tandis que tante Lydia arpente les rangées de femmes agenouillées en chemise de nuit, et nous frappe légèrement le dos, ou les pieds, ou les fesses,
ou les bras de sa baguette en bois, si nous nous laissons aller ou nous relâchons. Elle nous voulait la tête penchée, juste ce qu'il faut, les orteils réunis et tendus, les coudes à l'angle adéquat. Une partie de l'intérêt qu'elle y portait était d'ordre esthétique. Elle aimait ce spectacle. Elle voulait que nous ressemblions à quelque chose d'anglo-saxon gravé sur une tombe ou à un ange de carte de Noël enrégimenté dans nos robes candides. Mais elle connaissait aussi la valeur spirituelle de la rigidité corporelle, de la tension musculaire. Un peu de souffrance purifie l'esprit, disait-elle. Et donc, un peu plus loin, De Fred se réapproprie la prière. Elle déclare qu'elle est assise à la fenêtre et qu'elle regarde le rideau du jardin vide en fermant les yeux. Et elle déclare: J'ai suffisamment de pain quotidien, alors je ne perdrai pas de temps à en demander. Ce n'est pas un problème majeur. Le problème, c'est de l'avaler sans s'étrangler avec. C'est donc au bord de l'abîme que la foi du personnage s'apparente à un besoin fondamental de sens, qui permet une vision stable de la réalité en mouvement. Et cette quête de sens métaphysique et religieuse a été étudiée en neurosciences par Sébastien Boller dans son essai de 2019 qui s'intitule Bug humain. Il parle alors de neurosciences existentielles ou alors de neurones de la foi pour désigner une partie de notre cerveau qui interroge la représentation du monde environnant. En fait, plus simplement et scientifiquement, il s'agirait d'un cortex singulaire que chacun aurait et qui recherche du sens face aux questions existentielles que sont le destin, l'incertitude, la mort ou encore la survie. Et en cela, les récits utopiques ou dystopiques comme celui d'Atwood seraient des fictions consolatrices pour réduire l'entropie, c'est-à-dire l'angoisse du désordre anthropologique, l'incertitude. Dans ce passage cité, et je terminerai là-dessus, la représentation mortifère des corps féminins en prière associe le culte religieux à la violence. On retrouve le procédé de l'hypotypose, c'est-à-dire la description hyper réaliste et frappante de ces femmes en prière. La croyance devient belle, elle devient un objet admirable. Puis, la prière se militarise, car elle devient un espace autoréflexif de liberté, un espace mental insaisissable pour les tentes. La prière est un outil d'espoir, de repos ou d'utopie. C'est le cas pour le personnage de De Fred, où l'expérience poétique va réussir à infléchir l'expérience liturgique et reconfigurer la lutte au féminin. L'émotion consacrée au recueillement permet alors à la catastrophe d'être contrebalancée par une quête intime du sacré.
Merci beaucoup Emmanuel. Il y a un certain nombre d'éléments extrêmement intéressants dans cette proposition que tu nous as faite et sur lesquels je vais revenir aussi. Donc je trouve ça vraiment très très stimulant comme échange. Et je vais laisser la parole aux autres intervenants intervenantes s'ils veulent échanger avant que je ne parle des liens que j'ai vus entre nos deux interventions.
Moi, j'en ai peut-être une petite si personne d'autre n'a rien. Ça revient un peu à ce que je parlais avec Maud, c'est-à-dire le lien entre le roman et la série, parce que ça m'a beaucoup marqué le rapport au religieux dans la série, personnellement. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais quand on voit ce genre de série-là en 2023, on s'imagine toujours qu'on va être dans un discours anti-religieux, puis au contraire, on a toujours la religiosité de June et de Luke, entre autres. Paraît assez étonnante, disons, montrant bien que le discours est pas si opposé, pas si clair que qu'on s'attend dans une dystopie, en fait. Puis je trouve intéressant l'opposition qu'il y a entre la pratique religieuse institutionnalisée, qu'on voit surtout dans les flashbacks, mais pas seulement, c'est-à-dire les baptêmes notamment, et aussi la lecture de la Bible, qui est interdite dans Gilead, puisque les femmes sont interdites de lecture, point. Et donc, il y a toute cette, dans la série, il y a toutes ces deux choses-là, c'est les pratiques des baptêmes et les pratiques de lecture de la Bible, qui me semblent vraiment intéressantes. Donc, si tu as des choses à dire là-dessus, ça m'intéresserait beaucoup.
Je te rejoins en fait sur cette idée que la série propose un cadre religieux très rigoriste, c'est-à-dire très serré, très carré. On voit le côté institutionnel, ultra conservateur de la série. Elle joue sur ce décalage entre la conviction féminine qui cherche à atteindre la liberté, une forme de liberté, et puis ce cadre ultra-religieux. Je trouve quand même que dans le livre, mais c'est mon avis, après on peut en discuter tous ensemble, il y a quand même quelque chose de plus diffus. C'est-à-dire dans le livre, il y a le choix des mots, il y a quelque chose de plus subtil. La série est très bien faite, on voit ce contexte, cet arrière-fond religieux, mais dans le roman, on a l'impression que l'héroïne, c'est pas seulement une conviction, c'est pas seulement un combat, c'est une foi, c'est une véritable foi, c'est une croyance. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée de croire et de mécroire, parce que de Fred, on a l'impression qu'elle va constituer, alors on le voit bien dans la série, une communauté féminine anti, enfin voilà, où elles vont réussir par le chuchotement à se rebeller, mais en même temps. En même temps, dans le roman, elle se réinterroge vraiment sur la métaphysique, sur son propre questionnement métaphysique. Et je voulais aussi rebondir sur ce que Maud disait, et ce que vous disiez tout à l'heure, notamment la fertilité, la question de la fertilité. Donc ça, voilà, je reviens en arrière un petit peu. Mais Atwood utilise le terme de femme fertile et de femme improductive. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, cette question de la productivité de la femme. Voilà.
Je pense que dans la version originale, elle utilise barren, par contre, qui est très, très lié à la Bible, au discours
OK.
biblique. Ouais. Maud,
Oui, c'est ça. En effet, dans la version anglaise, c'est barren. Donc, c'est les femmes fertiles et les barren women. Ce qui est avec tout, genre, blessed be the fruit, l'idée du fruit et tout ça, vient encore se porter de un sens encore plus grand, là. Donc, c'est quand même intéressant pour ça, c'est le terme en soi. Mais Offred va d'ailleurs parler de son corps comme de quelque chose qui peut être à gaspiller, tu sais, va dire I will not be wasted, tu sais, je vais pas être gaspillé. Donc le potentiel, la productivité, tout ça est vraiment intimement lié à la capacité de produire un enfant et donc d'accomplir sa fonction, tu sais.
merci.
J'étais quand même intéressé par ce que tu avais dit, Emmanuel, parce que je trouve, puis ça, c'est, je crois que c'est plus vrai dans la série que dans le livre. Les fondements, soi-disant théocratiques de Gilead sont une perversion totale de l'esprit même de la religion. Puis, on voit dans la série que le régime rase des églises pour mettre en place des espèces de lieux de culte, tu sais, qui sont complètement délirants, là. C'est drôle parce que j'ai vraiment visionné souvent cette série. À chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, je me retape toutes les saisons. Puis en amont de notre rencontre aujourd'hui, j'ai essayé de faire un petit marathon. J'y reviendrai tantôt. Je trouve que ça demeure une télésérie extrêmement bien adaptée, puis très pénible à visionner pour un paquet de raisons, là. Mais c'est délirant, là, les pravaganza, puis les espèces de cérémonies qui sont plus articulées sur le spectacle que sur les fondements même. Alors, je trouvais que ça, en tout cas, c'est quelque chose qui me venait à l'esprit en t'écoutant. C'est pas que j'avais quelque chose à rajouter plus que quelque chose à souligner, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant.
Et c'est vrai que la série, et tu as raison, insiste bien sur cette dimension spectaculaire. C'est-à-dire, on le voit, c'est véritablement un spectacle. Alors que j'ai l'impression que le roman joue plutôt sur des blancs, des non-dits, et que du coup, ce danger, en fait, ce basculement, il est omniprésent. Alors que dans la série, on voit bien, bon, je caricature, mais on voit bien les méchants, enfin, on voit bien à quel clan ils appartiennent. Alors que dans le roman, c'est la religiosité, c'est quelque chose de plus diffus. Tu sens que ça peut basculer, que c'est sur un fil, et puis que c'est pas tout blanc ou tout noir. En tout cas, c'est la lecture que j'en ai, mais à discuter, hein, vraiment. Mais la série insiste bien sur le spectaculaire, ouais.
Oui, puis d'ailleurs, ça me fait penser à un détail. Bon, la fameuse cérémonie qu'on apprend dans la série. Ben, évidemment, il y a un spectacle, tu sais, à la fois absurde et pénible dans ce rituel, mais on apprend dans des discussions, dans les flashbacks, que c'est juste une idée là, qui s'est dégagée là, comme ça entre Fred et. Je me souviens plus de son nom, ce personnage-là, mais bref, un des fondateurs. Des Sons of Jacob, puis ils sont comme un peu, ah ouais, comment on gère cette question de la fertilité? Ah là, si on appelle ça la cérémonie puis qu'on ritualise tout ça, ben là, les épouses vont en bas. Dans ce régime théocratique-là, ceux qui sont les moins croyants sont ceux qui enforcent, excusez l'anglicisme, une force, c'est ceux qui imposent la théocratie aux autres, finalement.
Totalement. Il y a cette idée de cérémonie, de rituel, de foi, de communion aussi. En tout cas, dans le livre, il y a beaucoup ce terme de communier, qui est à la fois, plus on avance dans le roman et puis plus elle l'utilise de manière personnelle, puisqu'elle dit qu'elle a communié avec l'inconnu dans sa chambre lorsqu'elle a trouvé le message en latin de rébellion. Donc, elle utilise le verbe communier quand même, qui est quand même fort. Une réappropriation du religieux, en tout cas, du sacré. Il y a quelque chose, voilà, de la religiosité, j'ai l'impression. Mais oui, oui, pour la série, je suis d'accord.
Moi, je trouve que le roman est quand même très axé sur le spectaculaire, mais c'est pour ça que j'ai aimé la distinction que tu as faite en spiritualité et puis religiosité. Tout ce qui est religieux est très, très, très symbolique. Mais tout ce qui est spiritualité, là, est vraiment beaucoup plus nuancé. T'sais. Mais on l'a vu même dans la citation que tu as nommée, t'sais, elles font la prière, puis la tante qui aimait ce spectacle. T'sais. Donc, il y a vraiment dans les rituels un spectacle qui est là, mais dans la spiritualité, puis dans le privé, là, on a vraiment plus quelque chose de nuancé dans le roman, en effet.
Et oui, et il y a même c'est un geste pictural, en fait. Ça nous rappelle les peintures religieuses, en fait, où on voit cette posture d'extase, de croyance, en fait. Oui, totalement. Et tout à l'heure, tu parlais d'hyperbole, et c'est ça, en fait.
Je voulais faire le point avec ce dont tu parlais plus tôt, justement de l'aspect de productivisation et aussi en fait cette notion de offred qui ressemble beaucoup à offold, donc l'offrande, et donc aussi cette couleur du rouge. Et là, on voit déjà le lien qui se dessine un petit peu entre l'offrande religieuse et le côté cher, l'offrande religieuse qui a beaucoup été une offrande d'animaux morts, et cet aspect aussi justement productivisation, de consommation. Maud parlait tout à l'heure de la question du gâchis, et en fait finalement c'est les capacités biologiques du corps qui ne doivent pas être gâchées, mais pas vraiment les capacités plutôt émotionnelles, les capacités humaines qui, elles, sont gâchées et sont mises de côté, puisqu'on considère finalement la femme et la servante non plus dans ces capacités d'être humain, mais vraiment de corps, de chair à consommer. Je ne sais pas si tu as creusé encore un petit peu davantage cette question-là.
Comme t'enrichis, donc c'est super. En fait, j'ai l'impression que ça se dirige vers le haut quand tu fais une offrande animale, en fait, un sacrifice animal. C'était quelque chose de vertical. Et donc là, il y a dans La Servante écarlate cette notion d'urgence, en fait, de consommation de la chair, comme tu dis, mais aussi d'urgence parce que il y a la survie. Donc la religion devient un motif, un alibi pour consommer rapidement dans l'urgence et pallier à cette chute drastique de la natalité. Donc alors que les offrandes qui étaient faites, il y avait quelque chose de l'ordre de la foi pure, en fait. On en parlait tout à l'heure, tout est dans l'apparence et dans l'être, et là dans La Servante écarlate, il y a ce camouflage religieux, mais derrière ce camouflage religieux, il y a quelque chose de plus profond, de plus mystique, il y a une reconfiguration du politique, et puis cette consommation, ouais, de féminine, mais pour la survie, pas pour la foi, du coup.
Merci beaucoup.
Merci. Juste Hélène, peut-être avant qu'on passe à Manon.
Oui, rapidement, merci. Je voulais revenir sur la distinction dont on vient de parler entre non productive et barren en anglais. Parce que je me demande si ce n'est pas symptomatique aussi justement du décalage temporel entre la publication du roman, enfin la date de publication du roman, et la publication de la série. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en anglais, barren, ce qui est vachement intéressant, je pense, c'est que ça renvoie aussi au sol. On parle de barren soil, d'une terre qui est pas fertile, quoi, en fait, et qui permet pas de faire pousser quoi que ce soit. Et je pense que dans le contexte du backlash féministe des années 80, c'est sans doute pas innocent que Atwood utilise cet adjectif-là, parce qu'évidemment, ça renvoie, enfin, vous allez toutes et tous y penser immédiatement, hein, ça renvoie à l'association de la femme avec la nature, donc une essentialisation assez classique, quoi. Alors que dans la série, le fait qu'on ait la notion de production, d'incapacité à produire, de ne pas être productive, pour moi, ça se connecte beaucoup plus, enfin, j'en parlerai tout à l'heure, mais ça connecte beaucoup plus avec la dimension biopolitique du contrôle des corps, mais dans un contexte économique aussi. Et ça, je pense que c'est, d'un point de vue politique, c'est beaucoup plus ancré dans la période post-2017, qui est la période. Voilà, c'est aussi le début des années Trump. Et c'est de toute façon ce que tu disais tout à l'heure sur l'ère du capitalisme moderne et débridé. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi une sorte d'ancrage temporel un peu distinct entre le roman et la série de ce point de vue-là dans l'utilisation des termes. Voilà, c'était juste ça.
Je trouve ça intéressant en fonction, oui, du contexte, de la période, effectivement, le choix des mots. Ouais. Effectivement, puis quand Atwood écrit, bon, je ne sais pas si elle a été influencée ou pas, mais il y a aussi les écrits de Françoise d'Aubonne qui résonnent peut-être avec l'écoféminisme. Donc peut-être, oui. C'est une question intéressante. Merci.
Merci beaucoup. Et effectivement, je vais rebondir finalement un petit peu sur cette question-là, puisque j'ai choisi d'intervenir en particulier sur la série, puisqu'il me semble effectivement qu'il y a une certaine distinction en termes de regard et d'approche finalement sociale et économique dont je vais parler un petit peu. Donc, pour ma part, je souhaitais aborder la question de l'analogie entre la condition des femmes, en particulier des servantes dans l'adaptation télésérielle, et des animaux dans l'élevage industriel dans nos sociétés contemporaines. Donc la procréation, elle est souvent considérée comme un élément qui est dit naturel et qui est essentialisé justement, voire l'un des derniers éléments rapprochant l'humanité de son origine animale, notamment par la viviparité. Et cette idée, elle est assez largement réinvestie dans de très nombreuses œuvres de fiction. Donc je tiens tout d'abord à indiquer que Margaret Atwood ou encore les réalisatrices et le producteur de la série, notamment Bruce Miller, n'ont pas fait de commentaires en ce sens, mais selon moi, nous pouvons voir dans cette dystopie un certain nombre d'éléments qui rapprochent la condition féminine et en particulier maternelle de celle de l'élevage dans le système industriel actuel. Donc les femmes dans cette fiction, comme les animaux, sont privées de droits et de toute liberté. Et en premier lieu, dans The Handmaid's Tale, que ce soit dans la série comme dans l'œuvre romanesque, les femmes sont divisées en classes en fonction de leurs aptitudes reconnues. Donc les épouses ont un rôle de coordinatrice du foyer, elles s'occupent également des enfants. Les Martha sont chargées de la tenue du foyer, elles font la cuisine et le ménage. Les servantes, sont chargées de la reproduction, ce sont les femmes fertiles qui peuvent enfanter pour le couple auquel elles sont attribuées. Les tantes, quant à elles, sont chargées de l'instruction des servantes. Elles leur inculquent comment se comporter, le chemin à suivre. Elles les punissent lorsqu'elles fautent et sont chargées des exécutions en cas de faute grave. Les Jézabel sont les prostituées. Elles sont illégales mais tolérées parce qu'elles profitent aux commandants qui en sont de fidèles clients. Donc, il est possible de rapprocher ce cloisonnement fonctionnel de celui des animaux, de la répartition des animaux, avec les épouses comme une sorte d'incarnation des animaux de compagnie, les chats, les chiens. Les Martha, ce seraient quant à elles les animaux domestiqués pour leur service, les ânes, les chevaux par exemple. Les servantes, ce seraient donc dans cette idée les animaux d'élevage, les vaches, les brebis, les cochons. Les tantes, ce seraient les chiens de berger ou de chasse, tandis que les Jézabel, ce seraient les animaux un peu plus rares, disons exotiques, que l'on va voir pour se divertir dans des lieux consacrés comme les animaux dans les zoos et les cirques, par exemple. Donc ici, mon analyse, elle se portera plus particulièrement sur la condition des servantes, puisque c'est celle qui est la plus largement déployée dans l'œuvre originale comme dans la série, mais aussi celle qui semble la plus analogue à celle des animaux dans les sociétés capitalistes industrielles contemporaines dans la série. Donc les servantes, dès leur arrivée dans Gilead, dès le fondement de Gilead, elles perdent leur identité, elles prennent le nom du commandant auquel elles appartiennent alors dont on a parlé, donc June Osborne dans la série, l'héroïne dont on ne connaît pas l'identité dans l'œuvre romanesque devient Offred ou de Fred en version française. Donc on peut ici faire référence à la notion de référent absent théorisée par Carol G. Adams dans The Sexual Politics of Meat, puisque l'individualité, elle est invisibilisée. Les matricules permettent la réification de l'individu, de se référer à un être sans avoir à conscientiser le fait qu'il s'agit d'un individu doté d'une sensibilité, d'une objectivité, d'une volonté propre. Dans ce système, les servantes, elles sont morcelées symboliquement. Elles ne sont considérées que comme des utérus en capacité de procréer, comme des ventres. Cette analogie entre servantes et animaux d'élevage, elle me semble perceptible à de multiples reprises, notamment visuellement dans la série, que je vais essayer d'évoquer ici, même si je ne pourrais pas revenir sur la totalité d'entre elles. Donc, dans l'épisode 1 de la saison 2, lorsque June s'enfuit pour la première fois, elle se découpe l'oreille afin d'en extraire un traceur implanté lors de son arrivée dans le Red Center, donc centre où sont formées les servantes. Cet emplacement, il rappelle celui des étiquettes électroniques jaunes sur lesquelles un numéro est inscrit pour les animaux d'élevage. Ces étiquettes, elles permettent l'identification et le suivi de l'animal depuis leur naissance jusqu'à leur consommation. Donc pour les servantes, il permet de les localiser à tout moment et ainsi, de façon similaire, leur suivi. Et seule la destruction de ce traceur permet de s'échapper des radars du système et de retrouver une forme de liberté. Je ne vais pas m'épancher trop longtemps sur la question des couvre-chefs qui sont assez évocateurs des œillères mises aux animaux de trait, ainsi que le fait que certaines servantes, notamment à Washington, sont muselées, voire avec la bouche fermée par des anneaux. Donc les servantes, elles sont plus en possession de leur corps, on l'a répété à de multiples reprises, mais elles sont violées de façon rituelle, une fois par mois, dans le but de mettre au monde un enfant. Et celui-ci ne sera pas considéré comme le leur, mais celui du commandant et de l'épouse auxquelles elles appartiennent. Donc leur vie, elle est rythmée par la claustration dans leur chambre, les viols mensuels jusqu'à fécondation, puis l'accouchement, la séparation avec l'enfant, le tirage du lait, le sevrage, l'envoi de la servante dans une nouvelle famille, et ce, de façon cyclique, avant de finir leur vie dans les colonies lorsqu'elles sont jugées justement trop âgées pour être productives. Donc on peut aisément faire le parallèle avec la vie, par exemple, d'une vache laitière en élevage industriel, dont la vie est rythmée de façon similaire. La claustration dans un boc, les inséminations tous les 10 mois, la mise bas, la séparation avec le petit, les traites jusqu'à la nécessité d'une nouvelle insémination, avant d'être envoyé à l'abattoir lorsque l'animal est jugé trop âgé pour être productif. Donc la valeur de l'individu est mesurée en fonction de sa propension à produire. C'est particulièrement tangible, notamment dans l'épisode 12 de la saison 2, lorsque la tante Lydia déclare, je cite, Vous n'êtes pas aussi productive que nous l'espérions. Alors que June doit donc à ce moment-là tirer son lait pour nourrir sa fille qui lui a été retirée pour être confiée au Waterford, tandis que June, du coup, conserve à ce moment-là uniquement le rôle de nourricière, de femme laitière, finalement. Et cette dimension capitaliste, et notamment dans son aspect économique, elle est très explicite dans l'épisode 6 de la saison 1, qui montre la commercialisation des servantes de la République de Gilead vers d'autres pays, et à ce moment-là, en particulier le Mexique. Les femmes, et en particulier les servantes, sont considérées comme des biens marchands, des ressources productives que l'on peut vendre et échanger entre pays. Donc dans cet épisode, June, elle doit faire croire à l'ambassadrice qu'elle a fait le choix d'être servante et qu'elle est heureuse de sa condition. Donc ça rejoint tout à fait le concept de suicide food évoqué dans The Pornography of Meat de Pearl G. Adams, qui sont des publicités qui montrent des animaux qui semblent être heureux d'être consommés, ou encore les paroles d'éleveurs assurant que les animaux demanderaient à être traits, gavés, etc. Ici, on tente de faire croire que les femmes, au même titre que les animaux, seraient heureux de leurs conditions, heureuses de servir l'homme, d'être utilisées, consommées, et on les utilise notamment pour persuader le consommateur potentiel. Plus tard dans cet épisode, June révèle à l'ambassadrice le fait qu'elles sont prisonnières en réalité et dévoile aussi les violences qui sont infligées aux servantes. Tu en parlais plus tôt, Emmanuel, et elle explique que les servantes sont battues, notamment avec des aiguillons à bétail, pour les forcer à obtempérer. On voit aussi à d'autres reprises le fait que des tasers sont utilisés sur elles. Donc, une scène aussi que je trouve particulièrement évocatrice se déroule dans l'épisode 1 de la saison 2. Après avoir refusé de lapider Janine pour tentative de suicide avec son enfant, les servantes sont punies collectivement. Un fourgon vient chercher June chez Waterford, des hommes la font entrer à l'arrière du véhicule. L'intérieur est entièrement métallisé et il n'y a pas de siège, comme on aurait pu l'attendre pour un moyen de transport destiné à accueillir des êtres humains, même prisonniers. Il y fait sombre et June perçoit la lumière au travers d'une mince ouverture au niveau de la porte. Elle se colle à cette source lumineuse, et je trouve que c'est assez évocateur des animaux qu'on voit dans les transports, notamment les camions qui les acheminent jusqu'aux abattoirs. Et une fois arrivée, June est sortie avec violence de l'arrière du fourgon, tandis qu'on lui met une sorte de masque ou de muselière afin d'étouffer symboliquement ses cris ou ses paroles. Toutes les servantes sont rassemblées à la manière d'un troupeau, leurs regards expriment la terreur. Des hommes accompagnés de bergers allemands les poussent et les somment d'avancer. Elles cheminent dans un endroit obscur, seulement éclairé par quelques lumières au mur. La scène est une alternance entre des plans subjectifs qui nous permettent de voir au travers des yeux des protagonistes et des plans qui sont rapprochés sur leur visage, qui montrent qu'elles ne savent pas où elles sont, ni ce qui leur arrive, et sont animées par la peur et l'incompréhension. Un gros plan est fait sur le visage de June, et son regard se fige alors qu'elle découvre ce qui les attend. Le plan suivant est un plan subjectif. Le spectateur a accès à ce que voit l'héroïne, qui est un échafaud sur lequel se trouvent alignés des cordes destinées à une exécution collective. Les servantes continuent d'être violentées jusqu'à l'échafaud, alignées tandis qu'on leur met littéralement la corde au cou. Ces femmes, privées de communication orale, et expriment quand même de façon très claire leur effroi par le regard. Cette scène, elle montre une communauté de pathos, la vulnérabilité, la sensibilité comme commune des individus confrontés à la mort. Une servante surine dessus. Tout cela n'est en réalité qu'une mascarade pour effrayer et menacer les servantes, mais cette menace est celle d'un véritable abattoir humain. Il y a également un épisode, le dernier épisode de la saison 3, qui débute de façon similaire à la scène que je viens de mentionner, au moment du coup d'État ayant abouti à la création de Gilead. Et on a notamment les femmes qui sont à nouveau mises en troupeau pour être sculptées. Elles sont nues et vraiment leur individualité, leur émotion n'est pas prise en compte, si ce n'est par les plans subjectifs et les plans rapprochés sur leur visage. Et enfin, dernier exemple, dans l'épisode 2 de la saison 3, alors que June fait les courses, certains plans sont filmés derrière les étals et donnent l'impression que la servante est littéralement en cage. L'un des seuls moments de liberté de June, finalement, en dehors du système, c'est le moment de son accouchement de sa fille avec Nick. Et là, le parallèle avec l'animalité, il est encore présent, mais avec cette fois un animal emblème de liberté, de maternité choisie, la louve. Donc le rapprochement avec l'animalité, c'est un procédé qui est largement utilisé dans les systèmes totalitaires pour dégrader les individus et bafouer la dignité que l'on attribue aux êtres humains. Mais dans la série, j'ai l'impression que le procédé, il est un petit peu détourné pour au contraire montrer comment ce système, il est délétère et il nie les émotions et la sensibilité de ces femmes et montre la communauté de pathos. Les exemples sont encore nombreux à ce sujet-là.
Oui, absolument, Manon. Merci beaucoup. C'est intéressant. Ça me faisait penser à l'idée au débat sur la sentience dans le discours animaliste depuis très, très longtemps, hein, c'est-à-dire que la réflexion sur justement la possibilité de la sentience animale qui devrait être liée au droit. Mais c'est intéressant parce que dans la série, elle est constamment niée, cette sentience-là des servantes, mais même sur le mode de la surprise. C'est-à-dire, de la même façon dont aujourd'hui plusieurs personnes pourraient se surprendre de la sensibilité animale ou de la sentience animale. Par exemple, quand les épouses, je pense que c'est Serena Joy, comprend que June sait lire, elle est surprise. Alors que c'est très récent, la révolution. Je veux dire, c'est il y a quelques années. Ça s'est fait en quelques années. Donc, il y a cette surprise-là devant les capacités même des savantes ou même de leur capacité à s'émouvoir devant leurs propres enfants. Donc, il y a comme cette surprise-là de l'autre épouse devant Janine qui souhaite côtoyer son propre enfant, souhaite l'aimer, souhaite le voir. Puis elle est surprise par ce désir-là. Donc, c'est le rapport de la surprise devant les servantes, quelque chose qui va dans ton sens d'une certaine façon.
Oui, c'est vrai, il y a un aspect vraiment de cloisonnement qui fait que finalement il y a une habitude qui s'installe très vite sur le fait de ne plus considérer du tout la personne dans son entièreté, mais vraiment voilà, morcelée de façon symbolique. Et là, ça me fait penser à la scène où June va chez le médecin et il y a un rideau qui empêche de voir son visage. Donc c'est vraiment, elles sont considérées que comme des ventres, mais pourtant je trouve que la série va au-delà de juste une réification finalement du personnage et montre davantage une animalisation avec le fait de découper la personne alors qu'effectivement elle a des émotions et c'est très impactant.
Ouais, il y a création d'une étrangéité là-dedans, en fait, qui est assez intéressante. Ouais.
Pour rebondir sur ce que tu disais, Manon, c'était très intéressant. J'ai juste ouvert le roman là devant moi et j'ai trouvé une métaphore animale qui rejoint ce que tu disais. Un rat dans un labyrinthe est libre d'aller où il veut, à condition qu'il reste dans le labyrinthe. Et je pense qu'il y a cette notion vraiment aussi d'enfermement qui est intéressante et qui rejoint la question de l'animalité. Et puis aussi dans la version française, elle utilise le verbe, voilà, nous bruissons. Je valide.
Depuis que tu m'en as parlé de ton sujet, Manon, je le voyais tout là parce que tu m'en as parlé alors que j'étais en train d'écouter la série. C'est hallucinant les métaphores animales. Puis des fois, c'est pas des métaphores, là, on est vraiment dans la littérarité, mais c'est vraiment partout. Effectivement, t'as bien fait de te concentrer sur un aspect, mais c'est certain qu'il y en a des tonnes d'exemples. C'est impressionnant.
Effectivement, et il y a aussi une scène dont j'ai pas parlé, mais le moment de l'accouchement, notamment de Janine, où elle parle de cette odeur, et j'ai trouvé ces mots qui amplifiaient le contraste entre le fait qu'il s'agit d'un accouchement, ce qui a le moins, entre guillemets, naturel et le plus, justement, culturel, ritualisé qu'on puisse voir, avec justement ce rapprochement pourtant avec l'animalité qui est souvent utilisée justement pour naturaliser et essentialiser cette condition de l'accouchement. Donc, une fois qu'on a remarqué ça, c'est assez difficile de ne pas le voir de partout.
Je vais juste répondre parce que dans les exemples qui étaient évoqués, il y avait entre autres les rats dans le labyrinthe. Puis dans la saison 2, quand Alfred est rattrapé, là, que sa fuite est coupée, elle est ramenée au centre et là, elle est enchaînée dans un gymnase et elle compte les fleurs sur la courtepointe, là, c'est combien il y en a et elle mentionne que les rats vont choisir, tu sais, les rats justement dans une cage vont choisir l'électrocution juste pour se donner quelque chose à faire, puis que les cochons, tu sais, qui poussent le ballon, et, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Puis aussi, je me souviens très bien moi aussi de la scène de l'accouchement de Janine, puis le commentaire de Alfred là, comme quoi, tu sais, c'est ça, l'odeur renvoie à la naissance. De chaton. Puis, en fait, ça m'a fait penser que quelques épisodes plus tard, l'épouse, Naomi, je pense son nom, là, l'épouse dont elle est la servante, va commenter très négativement la présence de Janine comme étant très difficile à endurer. Elle va comparer ça avec le fait d'endurer, en anglais, là, a feral cat, donc un chat sauvage. Je trouvais qu'il y a vraiment, finalement, encore plus que j'aurais pu imaginer, il y a vraiment une cohésion. Absolue là, dans ces références et dans ces analogies-là. Je trouve ça vraiment fascinant. Autant ici on parle d'adaptation, mais tu sais, c'est une adaptation solide, là.
Merci.
De mon côté, j'ai eu envie de vous parler. Bon, ça va répondre de toute façon, d'une certaine façon à Manon, mais vraiment ailleurs. Je pense que le dialogue peut être assez intéressant entre nos deux interventions. Donc, de mon côté, j'ai eu envie de vous parler d'un élément un peu plus périphérique de Handmaid's Tale, qui passe souvent inaperçu, quoiqu'il est toujours en arrière-plan, en particulier dans les discours, c'est-à-dire la crise écologique. Et si j'utilise un terme aussi vague que crise écologique, c'est justement parce qu'elle le demeure toujours vague. Vague, il est vaguement question de l'ère qui a été remplie de produits chimiques et de radiations, le défi à l'agriculture à l'ère des nouveaux modèles météorologiques, de réduction de gaz à effet de serre, de malnutrition généralisée, de sauver la planète, de nettoyer l'environnement. Dans le roman, certains passages, quoique rares, sont un peu plus précis. On mentionne l'explosion, par exemple, de centrales nucléaires en Californie, et l'épidémie du sida et d'une syphilis résistante aux antibiotiques. Mais la plupart du temps, le roman et la série décrivent la crise écologique en utilisant une rhétorique biblique, toujours sous la forme d'une longue liste de calamités sans lien particulier qui conduisent à l'apocalypse et qui apparaissent comme des punitions morales, voire divines, à l'humanité. D'ailleurs, la plupart des passages de la série qui en parlent explicitement correspondent à des présentations d'endoctrinement par Tante Lydia au Red Center, accompagnées de diapositives. Sinon, c'est au détour d'une phrase, alors que la toxicité de certains aliments est évoquée, par exemple dans le premier échange qu'on voit entre Nick et June, dans le premier épisode, ou la très faible fertilité, qui sont aussi évoquées comme étant causées par une crise écologique non définie. Donc, pourquoi la série adopte donc l'imprécision autour de cette crise, qui paraît pourtant majeure, alors que les exemples de catastrophes réelles et aisément imaginables ne manquent pas aujourd'hui pour alimenter la fiction? Il y a plusieurs raisons, à mon avis. Une volonté d'aborder surtout les conséquences sociales et non les causes, qui sont de toute façon déjà largement connues. une volonté d'universalisme plus grand, hein, parce que la crise n'est pas la même entre 84, 85 et aujourd'hui. Mais surtout, deux autres raisons qui vont m'intéresser davantage, la mise en évidence de la conséquence de bannir tout discours scientifique et de ne plus avoir le vocabulaire pour en parler. Hein, la science est interdite à Gilead et elle n'est pas évoquée au Canada non plus, dans les épisodes qui se passent au Canada, puisqu'ils sont surtout aux prises avec une crise migratoire, diplomatique et militaire. Donc, le seul discours scientifique représenté dans la série, et il n'y en a aucun dans le roman, c'est un cours de microbiologie donné par Émilie dans un flashback, mais elle n'évoque jamais la crise dans ce cours-là, justement. Elle parle de microbiome sur l'individu, il n'y a aucune mention, de la crise. Et donc, je pense qu'il y a une absence de discours, une absence de langage pour parler de manière plus précise de cette crise écologique. Finalement, et surtout, l'instrumentalisation de cette crise à des fins idéologiques et politiques nécessite qu'elle demeure floue, une menace lointaine, imprécise, mais indéniable et majeure, hein, comme toutes les crises ont pu créer des discours de mobilisation de cette façon-là. Par exemple, comme les crises migratoires sont toujours floues, jamais précises. Pour être instrumentalisée, ça doit rester comme ça. À ce sujet, donc, tout au long de la série, la crise écologique, prise dans un sens très large, est constamment utilisée comme justification des violences et des restrictions liberticides dans Gilead. Les défenseurs du régime se justifient à leurs interlocuteurs étrangers, horrifiés par un discours formaté par la propagande, disant que leur révolution a fonctionné, que leur air et leur nourriture sont désormais purs, qu'ils ne prennent aucun médicament chimique, que leur fertilité est plus élevée qu'ailleurs, etc. Mais on ne comprend jamais, on ne comprend vraiment les liens entre la crise écologique et la révolution que vers la fin de la saison 5, donc dans les derniers épisodes qui ont été diffusés jusqu'à présent, l'épisode 8, intitulé Motherland, dans lequel le commandant Joseph Lawrence l'explique sans ambiguïté, en soulignant le grand paradoxe de notre époque. Nous sommes face à une crise écologique et climatique mondiale causée par le capitalisme. Pour vraiment régler cette crise, seule une solution collective et globale pourrait fonctionner, mais ça signifierait pour des politiciens qui doivent être élus à court terme de forcer des milliards de personnes à changer leur mode de vie confortable et donc d'abandonner leur liberté de consommer. Ça ressemble à une tâche impossible. Lawrence est un économiste hyper pragmatiste anticapitaliste qui a tenté une solution. Utiliser le conservatisme religieux, le fond puritain des Américains, friand de tradition et de simplicité, pour imposer à tous des changements radicaux de mode de vie. Il a compris que pour y arriver, ça prenait une idéologie pour les soutenir, mais il a sous-estimé les dommages collatéraux, les dangers de ces idéologies et le fanatisme qui les accompagne. Je le cite, Unfortunately, I had to use religious nut jobs as a delivery system, and I underestimated their depravity. Même s'il a atteint ses buts écologiques, il a complètement perdu le contrôle de sa révolution. Comme il le dit, Then it got away from me, it went septic. Il finit par être un des personnages les plus intéressants de la série, à mon avis, à cause de sa complexité et des échos historiques qu'on peut voir en lui de personnages comme Oppenheimer ou encore, plus précisément, Fritz Haber, chimiste de la Révolution verte, dont la femme s'est suicidée après qu'il ait eu transformé son engrais en gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale. Mais si dans la série, la crise écologique est surtout traitée explicitement à travers le discours, les allusions, voire certaines explications succinctes, donc toujours le langage, elle n'est pas pour autant absente de l'image, mais elle apparaît de manière beaucoup plus subtile et surtout symbolique, à travers les représentations de la nature de manière plus générale, toujours construites autour de contrastes, ce qu'on pourrait appeler un noyau oxymorique, pour suivre du tchèque, l'oxymore qui réunit la culture mortifère à la nature fertile. Ces représentations de la nature sont parfois euphoriques et associées à la vie, une nature magnifiée, fertile, lumineuse, parfois dysphoriques et associées à la mort, une lumière morne, un paysage gris, hivernal, d'arbres morts, etc. Elles sont parfois utilisées en contre-emploi pour créer un contraste, mais elles sont rarement dans le mode post-apocalyptique, à l'exception des colonies. Ces représentations idylliques ou mortifères de la nature sont presque toujours associées symboliquement au rapport que les humains entretiennent avec elle, à l'idéologie, voire au mythe du paradis terrestre notamment. Les représentations de la nature s'organisent en fonction de lieux spécifiques, dont plusieurs fonctionnent comme des hétérotopies, alors que d'autres s'inscrivent plutôt dans la continuité de l'écosystème. Donc, j'en liste quelques-unes pour terminer. Donc, les colonies d'abord, absolument dysphoriques, c'est le lieu hétérotopique de la crise écologique en marge de Gilead, c'est l'anti-Éden. Les seuls personnages principaux qu'on y voit sont Émilie et Jeannine, et c'est littéralement le lieu de l'agonie et de l'infertilité. On en a déjà parlé. La seule nuance est apportée par Jeannine, qui organise un mariage et des funérailles avec des fleurs. Et Émilie voit d'ailleurs un affront à leurs conditions. La nuance y semble inacceptable. Ensuite, il y a la serre et le jardin, ou les serres et les jardins. C'est le lieu de la nature domestiquée, le lieu des femmes. La lumière bleutée et les couleurs ternes lui donnent la plupart du temps une tonalité dysphorique, ce qui est en adéquation avec le fait que les femmes y sont souvent associées de force par la symbolique de la fertilité et par le travail domestique. Mais il y a néanmoins des nuances euphoriques dans la mesure où c'est aussi souvent leur lieu pour se réfugier ou se défouler, un des rares lieux où elles sont en contrôle. En plus de celle récurrente de Serena Joy, il y a un exemple mémorable de serre associé à la résistance dans un bordel au début de la saison 4. Joan la visite et aide ensuite à détruire tous les commandants qui la fréquentent avec du poison extrait de plantes. Donc la serre florissante, hein, elle est particulièrement belle, celle-là, est associée à la mort, mais à celle des bourreaux. C'est donc un lieu de reprise du pouvoir par les femmes. Ensuite, il y a la ferme, hein, autre lieu de la nature domestiquée, mais à plus grande échelle et pour une autre classe sociale. La ferme est un lieu autarcique de la vie, de la survie, de la communauté des femmes qui s'y forment. La ferme n'apparaît que dans quelques épisodes de la saison 4. Elle abrite les servantes en fuite, mais par le fait même force la maîtresse des lieux à abattre un cochon, hein, pour les nourrir, ce qu'elle souligne. Life is precious on the farm. Elle est blâmée d'ailleurs pour ça. La ferme est le lieu d'un savoir traditionnel féminin et naturel sur la vie et la mort qui est transmis par les Martha notamment. Elle peut nourrir et héberger, guérir June alors qui est alors blessée, mais elle peut aussi produire des poisons et faciliter le viol par son isolement. Ensuite, il y a le bord de mer et la rivière. C'est le lieu de la renaissance et de la réflexion, de la métamorphose, fondamentalement équivoque entre vie et mort. Serena Joy et June fréquentent le bord de mer, mais lorsqu'elles y plongent, on ne sait pas vraiment si elles veulent se suicider, s'échapper ou laver leur péché. Pour sa part, la rivière sert de lieu de baptême ou de renaissance pour ceux et celles qui la traversent pour s'enfuir au Canada. C'est le cas de Luke, hein, qui survit malgré les tirs sur son bateau, et Emily avec le bébé Nicole qui traverse à la nage et passe très près de se noyer. La mer et la rivière correspondent à la nature non domestiquée dans sa force la plus brute. Finalement, la forêt, c'est le lieu du sauvage, de la fuite et de la vengeance, hein, de la liberté, mais aussi un lieu à l'extérieur de la morale, un lieu du danger, de la violence. La forêt est traversée pour fuir. On la voit à plusieurs reprises dans les flashbacks, mais aussi par June et d'autres qui exfiltrent des dizaines d'enfants, puis par June seule alors qu'elle accouche et qu'elle y confronte un loup que Manon a évoqué. Dans les dernières saisons, la forêt prend surtout la forme de ce qui est nommé le No Man's Land, une zone de non-droit entre le Canada et Gilead, où sont installés les membres de la résistance et où June et d'autres anciennes servantes lynchent Fred Rutherford jusqu'à la mort. Comme la mer, mais beaucoup plus récente, beaucoup plus présente à l'écran, la forêt se trouve autant du côté de la vie que de la mort et incarne les forces non civilisées, sauvages et incontrôlables. Évidemment, il faudrait ajouter à ces lieux ceux de transition, l'orée, le bord de route, les ponts, les maisons abandonnées, qui offrent dans la série des lieux de rencontre, de passage, permettent surtout la vie et les retrouvailles, même temporaires. Ces lieux sont presque toujours baignés de lumière chaude, de plantes luxuriantes et apparaissent donc euphoriques. En bref, les représentations de la nature sont multiples et complexes dans la série et leur étude permettrait certainement une analyse axiologique et symbolique particulièrement riche. En s'éloignant des enjeux écologiques et climatiques spécifiques à notre époque, elle offre une réflexion plus universelle, mais je dois admettre qu'à certains moments, on pourrait souhaiter une nature un peu moins psychologico-symbolique, une nature qui ne serait pas qu'habitée et traversée par l'humanité, mais dont elle ferait réellement partie.
Ben en fait, j'ai pas réussi à me sortir de la tête encore cette histoire de barren puis de non productive, tu sais. Puis je trouve qu'avec ce que tu nous as dit, Hélène, le mot barren est encore habité ici d'un autre sens qui revient un peu à ce qu'Hélène disait aussi, mais avec la nature. Si on a si peu de mots, parce que justement, si peu de discours scientifiques pour parler de la catastrophe climatique qui, en gros, est représenté par les colonies. Donc, est-ce que barren, les unwomen, ne deviennent pas des métonymies dans le fond de ces lieux-là, tu sais? Le ventre des unwomen qui est barren, comme la terre nucléaire qui est barren aussi, comme l'agriculture qui ne peut pas se faire. Puis c'est peut-être là le lien, tu sais, le liant entre cette crise écologique dont on ne peut pas parler qui va vraiment apparaître dans le discours qu'on utilise pour pour classer les femmes entre elles ou les unwomen, justement, ici, là.
Ah, puis c'est très clair dans la série quand on apprend que June est enceinte, ben là on voit toujours en parallèle Serena dans sa sœur. Donc c'est tout à fait construit de cette façon-là dans la série. C'est très évident. Souvent la grossesse, si elle est positive ou négative dans la série, selon si elle est associée au viol ou non, par exemple, elle va être associée à une nature euphorique ou dysphorique. C'est assez impressionnant la construction comme ça. Je pense que tu as absolument raison. Puis même quand on est dans les lieux qui sont supposés à être fertiles, par exemple la ferme, ben on se retrouve à être là, mais en plein hiver. Donc forcément, la ferme a l'air complètement barren, justement, alors qu'elle est productive, mais visuellement, on a une construction de la nature comme barren parce qu'on est à un moment de l'histoire où, justement, les servantes, elles, sont dans une étape mortifère de leur libération. Mettons, oui, elles se sont enfuies, mais elles sont blessées et elles sont poursuivies et donc elles sont loin d'être libérées. Donc, on est dans l'entre-deux pour la nature aussi. Donc, il y a toujours soit une adéquation entre les deux, soit au contraire les contrastes énormes comme on peut voir dans le cas de la serre très très luxuriante qui permet de tuer dans le fond les commandants. Mais donc je pense que tu as absolument raison, c'est tout construit comme ça même dans chaque scène, c'est assez impressionnant.
C'est vraiment éclairant ton intervention. J'ai l'impression que voilà, Atwood, elle réactive quelque chose de l'ordre de la mythologie pour presque recréer un récit des origines, une cosmologie, quelque chose de où elle mélange à la fois du passé, du présent et quelque chose de mythologique. Quand je t'entendais parler des rivières, quand je t'entendais parler des éléments de la nature, de la forêt, il y a vraiment cette notion de mythologie. Voilà, j'apporte pas quelque chose, mais ça me faisait penser à ça.
Je me demande si c'est dans le roman, par contre, je suis pas certaine. Je pense que ça fait
Eh ben,
peut-être.
à la page où il y a la notion des rats, là, en tout cas dans la version que j'ai, elle parle de la rivière et c'est vrai qu'à un moment donné, avec sa partenaire, elle dit faisons un tour à la rivière. Elle veut dire faisons un tour. Elle veut dire par en bas, par la rivière. Donc la rivière est sous-entendue aussi. Enfin, tu vois, ça fait. Si je pense vraiment enfin, en tout cas, dans mon souvenir, je l'ai relu là pour le podcast, et si, il y a vraiment cette notion alors peut-être moins visible, mais quand même présente, omniprésente.
Ouais, la rivière en soi, c'est hyper intéressant parce que c'est à la fois le lieu du baptême, mais aussi le Styx. Donc, on est vraiment à mi-chemin entre la vie et la mort. C'est assez intéressant.
Ton intervention m'a aussi fait penser à l'écoféminisme de façon générale et à la construction aussi du capitalisme avec qui est passé notamment par une perte du sens et du sacré qu'on pouvait donner auparavant en la nature. Et là, c'est comme si justement il y avait un apport, un nouvel apport ou une résurgence de justement cette sacralité de la nature et du symbolique pour le rapprocher de finalement cette mise en ressources et cette utilisation qui est faite de la nature et avec finalement les différentes manières de considérer la nature qui est possible d'avoir. Donc, je trouve que c'est extrêmement riche de sens à ce niveau-là.
Ouais, d'autant que c'est peut-être plus nuancé que parfois, c'est-à-dire que c'est très contradictoire la façon dont la nature elle est utilisée ici, parce qu'on n'est pas du tout dans l'écoféminisme, au contraire, parce que d'une certaine façon, c'est les hommes qui utilisent la nature pour ramener les femmes à une servitude. C'est-à-dire que c'est les écologistes à la base, c'est juste, ils sont représentés dans le roman, ben, dans la série. Surtout parce qu'il y a plus de discours là-dessus, Lawrence, puis tout ça, comme étant une excuse, en fait. Donc le retour à la nature, c'est montré comme une forme de conservatisme. C'est assez rare qu'on voit les femmes revendiquer la nature de cette façon-là dans la série. Donc, il y a comme un renversement qui est un peu paradoxal, mais assez intéressant, à mon avis.
Je pense que ce qu'Hélène a fait fait bien la transition avec ce que je vais développer, puisqu'elle a parlé de la disparition du langage scientifique. Et moi, je vais aller même un petit peu plus loin pour effectivement parler de la disparition du signe. Donc évidemment, la série, c'est surtout de la série hein, dont je vais parler, mais vous verrez que je vais revenir au roman aussi sur la fin. La série, c'est un exemple typique de série post-cataclysmique. Et souvent, dans les séries post-cataclysmiques, on observe une disparition du signe. ou des signes, c'est une des caractéristiques hein, de ces séries, ou alors, dans d'autres exemples, des signes qui acquièrent des significations qui font puissance. Donc, ce type de série permet de poser plusieurs questions, et en particulier, qu'est-ce qui reste quand le signe en tant que tel, en fait, a disparu? Et aussi, ce qui m'intéresse également dans ce type de série, c'est qu'elle repose d'une certaine façon sur un paradoxe, puisque on peut pas vraiment représenter l'apocalypse si l'apocalypse ou le cataclysme hein, s'accompagne réellement d'une fin du signe et de la représentation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dépasser cette aporie-là? Et puisque évidemment, si le monde est détruit, il n'y a plus de médium pour en rendre compte, il n'y a plus de voix, il n'y a plus d'image hein, pour en rendre compte. Et de ce point de vue-là, la fiction du cataclysme, à proprement parler, pourrait pas réellement exister, puisqu'elle repose sur une aporie médiatique et une aporie sémiotique. Alors en revanche, dès le moment où on ajoute un poste, on réintroduit quelque chose, on réintroduit la possibilité d'un devenir qui permet d'envisager un après qui va généralement être dystopique hein, dans ces séries, mais un après qui reste quand même la trace à la fois de ce qu'un avant a pu exister et de ce qu'un après pourra peut-être se reconstruire. Donc les fictions post-cataclysmiques, elles introduisent une sorte de temps suspendu, et c'est ça qui m'intéresse, hein, cette notion de temps suspendu, entre l'avant qui n'est plus, mais qui reste l'image de référence des personnages. Et ça va être aussi un point qui va m'intéresser, cette notion d'image de référence qui persiste, associée au passé. La réalité correspond aussi à la réalité des spectateuristes, qui reste inscrit dans un espace-temps qui donc a disparu dans la réalité fictive. Et puis un après qui est toujours en devenir hein, dans la diégèse et qui n'a pas encore acquis la stabilité d'une organisation sociétale reconstruite durablement. Donc le monde d'avant qui a disparu peut perdurer sous forme de fragments. Il disparaît, mais il perdure sous forme de fragments, de traces ou de vestiges, comme un monde qui aurait été englouti ou enfoui en profondeur, hein, mais dont quelques signes persistent encore. Donc dans la série, c'est le personnage de June, bien sûr, qui occupe ce type, hein, de réalité suspendue. Son monde passé a disparu, mais il reste bien son image de référence et on y a accès, on en a déjà parlé, hein, par des flashbacks qui montrent le monde d'avant. Par exemple, les mouvements féministes avec la génération de la mère de June. Donc, il s'agit bien d'une image de référence pour June, image d'un passé qui clash avec le présent dystopique dans lequel elle se retrouve. Et ces images sont cependant pas coupées de la réalité diégétique dystopique de Gilead, puisqu'elles permettent aussi d'observer un glissement progressif vers un retrait de tous les droits des femmes et leur assujettissement progressif aux hommes. Comme avec l'exemple hein, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure du retrait du droit à avoir un compte bancaire, qui doivent désormais, donc les femmes doivent désormais hein, dépendre de leur époux pour tout ce qui relève du financier. Donc June, dans la série, occupe une sorte de réalité suspendue, figée dans un temps qui ne progresse plus, en tout cas pour les servantes, hein, qui reproduisent, on a parlé des rituels, toujours les mêmes gestes, les mêmes rituels, occupent toujours la même fonction. Donc elles n'habitent plus le monde, elles n'ont d'ailleurs plus de nom hein, qui leur soit propre. Et ça, je pense que c'est aussi un point qui est particulièrement intéressant dans ce qu'a proposé Atwood, surtout si on se souvient que la première créature qui n'a pas de nom, c'est la créature de Frankenstein. Donc elles n'ont pas de nom qui leur soit propre, hein, mais elles ont toujours un nom dérivé de celui de leur maître. Donc d'un point de vue sémantique, je pense que ça, c'est pas innocent non plus. Et donc elles sont réduites à une fonction. Leurs corps et leurs esprits hein, ne leur appartiennent plus. Donc on est bien entendu dans un assujettissement typique, c'est ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais je crois que c'est vraiment flagrant dans cette œuvre, un assujettissement typique du biopouvoir qui contrôle et qui régule les corps devenus objets de consommation, donc ici de consommation sexuelle hein, avec les cérémonies et les viols que ça implique, des corps disciplinés aussi au sens où l'entend Foucault. Quand il évoque le biopouvoir, et dressé comme on dresse des animaux dans des centres. Donc, c'est tout ce que Manon a développé tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Hein. Et qui sont ces centres qu'on pourrait assimilé à des académies hein, où on discipline et où on éduque, comme celui où June rencontre Moira, Emily et Janine, et qui est tenu d'une main de fer donc par The Red Center, par Aunt Lydia, qui au passage c'est assez amusant, est aussi, enfin c'est amusant de constater que l'actrice qui joue Lydia, Anne Dowd, est la même actrice que celle qui joue le personnage d'Adjuvant dans une autre série. Où il est beaucoup question de signes qui font pas sens. Je pense à The Leftovers, où elle est aussi un personnage central. Alors, ce qui contribue, je voulais revenir à ce qui contribue à cet effet de suspension, c'est finalement, je pense aussi, en dehors du rapport au passé dont je vais reparler tout à l'heure, mais c'est le fait que ce monde dystopique, il est vidé de tout signe. Il est littéralement désémiotisé. Et la série propose un monde fictif. Donc évidemment, dès qu'on est dans le cadre des arts visuels, ça a un impact encore plus important parce qu'on voit qu'il n'y a plus rien à voir en termes de signes. Et donc, ce monde fictif désémiotisé littéralement, finalement, puisque la société imposée par la République de Gilead interdit la lecture hein, à la grande majorité de la population, et donc en particulier aux femmes, on en a parlé tout à l'heure. Donc plus de livres, plus de magazines, plus de papier ou de stylo pour écrire. Les mots sont des signes bannis, voire dangereux. Et on sait que la peine encourue en cas de transgression hein, est extrême. Donc on pourrait, dans cette série, parler d'apocalypse sémiotique. Et je pense que ça, c'est un trait spécifique de cette série-là, qu'on trouve pas forcément systématiquement dans d'autres séries, du moins de cette manière-là. Donc, c'est un aspect que Hélène a déjà évoqué dans un autre article où elle parlait, où elle faisait référence à une citation d'Umberto Eco qui dit que l'être humain est un animal symbolique. Et effectivement, enlever les signes et les symboles est une atteinte qui touche profondément l'être humain. Au passage, d'ailleurs, cette désémiotisation du monde, elle apparaît dans deux autres romans extrêmement connus hein, dans la veine dystopique, c'est Fahrenheit 451 et puis 1984 dont on a déjà parlé, enfin déjà parlé juste pour l'année de rédaction du roman. Donc lorsque les signes et les symboles disparaissent, le monde représenté tend d'ailleurs souvent vers la dystopie ou des régimes totalitaires et sectaires. Et c'est bien le cas de Gilead, où les femmes n'ont plus accès aux signes et à la connaissance, ni du coup à l'émancipation et à l'évolution qu'ils permettent. Priver les femmes de l'accès aux signes et aux symboles est aussi une façon très efficace de les empêcher de communiquer entre elles et donc d'engager des modes de résistance collective. Dans un monde où le signe a disparu, on voit cependant, et ça c'est un autre aspect que je voudrais développer un peu, on voit donc apparaître, hein, ou du moins on voit émerger la prévalence du fragment. Et ça c'est un aspect qui a été développé par un collègue et ami, Denis Mélier, à propos des univers post-cataclysmiques, et je vais en reparler dans un instant, c'est dans un article. Hein, excellent article d'ailleurs, publié dans la non moins excellente revue O 30 consacrée à l'Apocalypse. Donc ce motif du fragment, il apparaît dans la série, avec, et dans le roman bien sûr, hein, aussi avec la découverte des quelques mots latins dont on a parlé tout à l'heure, hein, gravés dans le bois du bas de la penderie de June dans l'épisode 4 de la saison 1 pour ce qui est de la série. Et au-delà du signe, ces lettres, elles représentent un acte transgressif fondateur. Perpétré avant l'arrivée de la servante chez les Waterford. En soi, on pourrait dire que ce fragment réintroduit un déroulement du temps et l'acte transgressif représente comme une encoche dans la surface plane d'un temps toujours identique et répété. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important. Ça réintroduit une forme de continuité, de chronologie, de déroulement du temps par l'idée de transmission. Et le deuxième point, c'est que ces lettres, elles vont aussi permettre une rencontre virtuelle entre celle qui les a écrites et celle qui les lit, toutes deux réunies par la dimension transgressive à l'œuvre, puisque écrire comme lire est strictement interdit. Donc ce fragment, il me paraît vraiment intéressant à analyser parce que je pense qu'il devient performatif en fait. Les lettres assurent une forme de transmission et vont contribuer à construire une entité plurielle. Puisque c'est, donc on le sait, hein, c'est bien par le symbole du nous qui va se construire hein, par ce fragment que va être créée la possibilité d'un collectif et potentiellement d'une résistance qui va apparaître et qui va devenir possible dans un univers où les servantes doivent être cantonnées à l'isolement, donc à l'impossibilité de communauté, de créer du collectif. Donc il s'agit bien littéralement de retrouver une valeur symbolique par la réintroduction du signe dans la série et dans le roman d'ailleurs. Il n'y a plus de totalité dans un tel monde. Tout y est réduit aux fragments et la fragmentation entre les êtres permet aussi bien entendu leur contrôle. Comme les êtres humains qui sont contrôlés et assujettis par l'isolement et la peur, seuls quelques fragments du monde d'avant le cataclysme demeurent et cet état de fait leur donne une valeur très particulière. L'inscription découverte par June dans le bas de la penderie, donc Nolite te bastardes carborundorum, prend la valeur d'une allégorie, au sens où elle souligne l'écart entre une réalité où le signe existait et celle des personnages où il ne refait surface que sous forme de fragments parcellaires et d'ailleurs aussi cachés. Cette inscription représente une main tendue, une amitié qui ne restera qu'une possibilité, le conseil d'une morte à une vivante, un passage de flambeau également en termes de résistance, et elle s'inscrit donc bien à la fois dans l'absence et la présence. Alors j'ai mentionné l'article de Denis qui dit ceci à propos de l'allégorie dans les univers post-cataclysmiques, donc je le cite, l'allégorie est fragment car elle ne renvoie pas, pour Benjamin, à un texte ou un récit complet et transparent, mais creuse l'écart entre ce qu'elle exprime et l'ensemble absent, inaccessible, qu'elle fait cependant entrevoir. Alors à mon avis, la série Hulu va plus loin dans la désémiotisation du monde en montrant des formes de résistance par ce que l'on peut appeler en référence à Thoreau la désobéissance sémiotique. Il s'agit bien pour les servantes écarlates de refaire du signe, de se réapproprier ainsi à la fois une individualité et un sens du collectif. Et de ce point de vue, la série diffère du roman. À mon avis, on peut en discuter, mais je pense que la série diffère du roman parce que le dernier épisode de la saison 1 complète ce processus de resémantisation par un acte de désobéissance civile collectif lorsque les femmes refusent de lyncher Janine. Donc la saison 1 va à l'encontre du texte d'Atwood, dans lequel, au contraire, les notes historiques qui concluent la fiction remettent en question l'authenticité du témoignage de la servante éponyme. Je vais revenir sur ces questions des notes historiques parce que je pense que c'est un point vraiment intéressant à creuser en termes. Et Louis-Paul en parlera peut-être quand il va parler de la question de l'adaptation, mais je pense que là, il y a des choses intéressantes à évoquer. Donc, la question de la temporalité suspendue, hein, par laquelle j'ai commencé, et la question des signes et des fragments m'amène aussi à l'acte de spectature qui, justement, implique une mise en signe. Spectature, c'est la mise en signe qu'on voit dans les images. Donc le monde diégétique du roman, comme de la nouvelle, est censé être un monde futur auquel on a accès par les images dans la série, donc images qui d'ailleurs relaient la focalisation de June, hein, et par la narration à la première personne dans le roman, où là l'identification à la narratrice est immédiate. Donc on a accès à un futur possible, futur possible qui a pris un sens très spécifique et une forte portée politique après l'élection de Trump aux États-Unis. Donc après 2017, mais aussi après l'abrogation de l'arrêt Roe versus Wade en juin 2022, qui met fin à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution américaine. Donc ce futur fictif a un effet rétroactif spécifique sur la spectature et très politique pour les spectateuristes de la série, et qui diffère, à mon avis, de celui des lectrices d'Atwood, hein, en tout cas en 85 et jusque dans les années 2000. Donc l'effet rétroactif, il s'est d'ailleurs illustré lors de manifestations pour le droit à l'avortement aux États-Unis, mais aussi en Irlande ou en Argentine, hein, avec des défilés de femmes déguisées en servantes qui reprennent donc le costume des servantes dans la série. Donc les servantes de ce monde futur désémiotisé sont devenues un symbole politique clair, performatif, pour dire haut et fort, hein, le refus de l'assujettissement des femmes, hein, et pour porter le combat féministe à la période contemporaine. Alors, évidemment, là, ça, je ne peux pas m'empêcher, je n'étonnerai pas Hélène en faisant ça, de revenir à la question de la science-fiction, parce que, en fait, c'est tout l'intérêt de la science-fiction que de proposer ce type de réfraction temporelle entre le futur et le présent, donc un futur possible dans la diégèse, mais qui informe ou qui se réfracte sur le présent du monde contemporain des lectrices ou des spectatrices. Et ce n'est pas pour rien que la science-fiction a été définie comme un futur antérieur. Donc la question de ce futur, Elle est sans doute encore plus intéressante, là encore, hein, ça peut se discuter, mais je pense que c'est encore plus intéressant dans le roman, même si je dois dire, parce que là, je dois faire amende honorable, que moi, je n'ai pas fini de regarder la série. C'est bien, vous m'avez bien divulgué, c'est super. Non, non, je plaisante, mais je n'ai pas regardé la fin de la série parce que contrairement à ce que disait Louis-Paul, hein, qui s'était engagé dans un marathon, moi, c'est une série que j'ai beaucoup de mal à regarder. Et à la fin de la deuxième saison, je me suis dit, il faut que tu fasses une pause parce que là, ça devient trop douloureux. Donc, j'y reviendrai, mais parce que visiblement, les enjeux écologiques qu'Hélène a évoqués m'intéressent. Mais pour l'instant, j'étais un petit peu en mode pause. Donc, pour revenir à ce que je disais sur le roman, la question de ce futur, hein, elle est donc sans doute, à mon avis, peut-être encore plus intéressante dans le roman, du fait de cet ajout, hein, de l'ultime chapitre, hein, intitulé Historical Note, qui est donc situé dans un futur encore plus éloigné, donc post-Gilead, hein, on est dans un futur du futur, là, et qui conclut le roman, donc un texte, hein, d'un tout autre ordre aussi, hein, que le témoignage à la première personne qu'on vient de lire. Donc ces historical notes, elles induisent, à mon avis, et elles produisent une déstabilisation radicale pour les lectrices. Le statut du récit individuel qu'on vient de lire y est totalement remis en cause, totalement remis en perspective. Donc non seulement en termes de chronologie, parce que vous vous souvenez, hein, dans les historical notes, il est bien précisé que les cassettes qui ont été récupérées n'étaient pas dans l'ordre et qu'il a fallu que les historiens recomposent la chronologie, mais aussi en termes de validité historique, d'authenticité individuelle et en tant que témoignage et biographie. Alors c'est aussi le terme même qui pose question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste un épilogue? On a bien non seulement des notes, mais des notes qui sont qualifiées d'historiques. Donc pourquoi ce terme historique? Pourquoi est-ce qu'Atwood réintroduit là la chronologie du grand récit, la chronologie de l'histoire avec un grand H? La chronologie du temps qui passe aussi, hein, qui reprend son cours, donc, après la suspension qu'a pu représenter le royaume de Gilead, et qui nous projette dans un futur ultérieur, un futur ultérieur au futur de Gilead. Donc on peut se demander quel effet ça produit, quel effet aussi sur notre présent, qui du coup devient un passé antérieur. Hein, il y a une sorte de décalage de deux crans, à la fois dans le futur et dans le passé. Donc dans la série, l'image ne peut pas opérer de la même manière que le texte. Et pour June, dans la série, ce qui est aussi frappant, c'est que les images du passé, elles constituent systématiquement un danger. Elle dit à plusieurs reprises qu'elle hésite à revivre ses souvenirs parce que c'est le danger de la nostalgie et de la perte. Et l'image et le souvenir deviennent dans la série des espaces dans lesquels on peut se perdre parce qu'ils sont désormais coupés du temps et surtout du temps présent. Donc ces images du passé, elles sont cependant, je l'ai dit, hein, celles dans lesquelles les réceptrices reconnaissent le monde de leur propre réalité, ce qui a pour conséquence de créer un effet très spécifique, puisque notre présent spectatoriel est relégué au rang d'un passé qu'on doit même plus donner l'illusion d'imaginer, hein, si on suit le cheminement de June qui ne veut pas s'abîmer dans ses souvenirs. Ça accentue en fait la dimension irréelle de notre propre temporalité, sa dimension irréelle et son caractère illusoire. Donc, pour finir et aller peut-être un peu plus loin, on pourrait ajouter que le futur projeté dans le roman, au contraire de la série, le futur de 2195, hein, il est aussi synonyme de devenir vestige, puisque les notes historiques relèguent Gilead au passé antérieur de l'histoire avec un grand H. Donc, qui a repris son cours, hein, tout en lui ôtant sa valeur de témoignage en tant qu'histoire, au sens de récit, le récit de June. Donc, le dernier chapitre du roman, il nous projette dans un futur ultérieur, où l'épisode historique Gilead est relativisé. Vous vous souvenez que le professeur s'adresse au public de la conférence et leur demande d'être compréhensif vis-à-vis de différences culturelles qu'on peut comprendre, qu'il ne faut peut-être pas accuser trop rapidement, etc., etc. Donc le monde de 2195 qui clame avoir tourné la page de Gilead, hein, et être reparti dans la marche du progrès reste pourtant plus qu'ambigu, et c'est tout l'intérêt, hein, de ces notes historiques. Donc, on a certes, d'une part, hein, dans ces notes historiques, la mention de plusieurs noms d'universitaires qui évoquent les Premières Nations ou des universités citées comme étant parmi les plus prestigieuses de ce futur ultérieur qui ne sont pas toutes dans le monde occidental. Mais les propos tenus par le professeur sont clairement sexistes, voire révisionnistes. Donc, la période temporelle qui correspond aux années Gilead, elle est réintroduite dans une chronologie temporelle avec les notes historiques, mais elle est dans le même geste coupée du monde de 2195. Elle devient à son tour un passé vestige, tout comme notre réalité était un passé vestige pour June. Enfin, notre réalité qui correspond à son passé. Le récepteur et la réceptrice font donc face à une double aporie, je pense, avec ces notes historiques, un passé trace qui n'est plus qu'un artefact dangereux et un futur vestige qui n'est peut-être qu'un simulacre.
En fait, ce qui m'intéresse particulièrement dans Handmaid's Tale et dans son adaptation, c'est tout ce qui touche la dynamique de notre rapport au champ visuel. C'est vraiment un enjeu qui sous-tend beaucoup de mes recherches. Dans le roman, mais aussi dans la télésérie, je vais m'arrêter plus dans la télésérie parce qu'évidemment, la forme télésérielle, comme le cinéma, nous sollicite de façon plus directe là, dans ces enjeux-là là, de notre rapport au champ visuel. Mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment présent dans le roman aussi. L'œuvre, au sens large, là, dans ses différentes déclinaisons, nous confronte quand même à une investigation contemporaine de nos rapports dans le champ de vision et surtout notre rapport avec ces deux visions, pardon, je déparle, avec ces deux concepts diamétralement opposés que sont le vision et le regard. Dans les différents articles que j'ai pu lire à travers les années, notamment sur le roman de Atwood, on parle d'une esthétique féministe radicale dans l'ouvrage, et je pense qu'on peut difficilement remettre en question cette affirmation, mais on retrouve souvent, puis c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement là, en lien avec mon champ de recherche, on retrouve souvent l'idée selon laquelle le roman, mais la télésérie aussi, nous confronterait à l'opposé du fameux regard masculin, le male gaze là, de Laura Mulvey. On nous proposerait un female gaze dans le roman et encore plus dans la télésérie. Ce que je propose de faire rapidement, je vais essayer de pas trop tergiverser, c'est de revenir un peu sur peut-être une mésinterprétation de ces termes-là avant de pouvoir proposer des pistes et non des lectures détaillées, mais vraiment des pistes de lecture liées avec notre rapport au champ visuel là, dans cet ouvrage-là, parce que dans le fond, Mulvey, son propos, dont on en parle encore 50 ans plus tard, donc il y a quelque chose, elle me doit évidemment sur quelque chose, mais on a beaucoup critiqué, puis j'endosse ces critiques-là, sa dénomination du regard masculin. Je vais y revenir tantôt, mais c'est parce que ce qu'on doit retenir, selon moi, de Mulvey, c'est l'idée du plaisir visuel, beaucoup plus que l'idée du regard masculin. Le plaisir visuel, ce serait ce qui se dégagerait de ce qu'elle nomme le regard masculin. Mais ça suppose donc que le female gaze, le regard féminin, serait lui aussi vecteur d'un plaisir visuel, mais d'un plaisir visuel au féminin. C'est là où je trouve que là, les erreurs conceptuelles qui sous-tendent pas juste le propos de Mulvey, mais genre l'ensemble de ce qu'on appelait une psychanalyse du cinéma dans les années 70, là, on avait des erreurs conceptuelles vraiment importantes qui ont été beaucoup commentées dans les 20 dernières années, surtout chez les penseurs anglo-saxons là, qui, eux, se sont donné la peine de relire Lacan beaucoup et de vraiment départager la notion du regard qui, finalement, le regard dans la psychanalyse, c'est l'opposé total de ce que nous, on conçoit être ce mot-là dans notre usage quotidien et dans notre rapport même personnel au champ visuel, puisque le regard, pour la psychanalyse, c'est l'opposé, c'est diamétralement opposé à la vision. Alors, il faut, je pense, différencier ces deux concepts-là pour ensuite peut-être voir comment ça peut être si richement exploré là, dans The Handmaid's Tale. Mulvey, dans son texte, renvoie à Freud et à sa notion d'une scopophilie. Donc, la scopophilie, c'est quoi? Bien, c'est le plaisir qui dérive du champ visuel et renvoie aux trois essais sur la théorie sexuelle de Freud, sauf que, comme l'ensemble de ses contemporains de l'époque, Mulvey fait une erreur. Elle centre son étude de la scopophilie uniquement sur ce qu'on pourrait appeler une scopophilie active, c'est-à-dire un rapport actif au champ visuel. Freud, en 1905, parle déjà des plaisirs scopiques comme étant alignés sur le fait de regarder et montrer, donc c'est-à-dire Regarder, c'est quelque chose, c'est notre rapport actif au champ de vision, c'est diriger notre vision quelque part. Et montrer, bien, c'est être vu, c'est passif, c'est, ben, on peut dire que c'est actif comme Freud le décrit lui-même, parce que montrer, c'est quelque chose que je fais, mais être vu, ce n'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose à quoi je suis soumis. Puis, dans le fond, me lever comme ses contemporains, c'est beaucoup centré, dans son article, elle parle déjà de utiliser la psychanalyse comme une arme politique. Donc, son propos est résolument et volontairement freudien, mais aussi lacanien. Sauf que à l'époque, on n'a pas encore vraiment une compréhension globale de ce que Lacan avait à dire sur le champ visuel, tout simplement parce que, ben, d'emblée, les séminaires n'étaient pas encore publiés et encore moins traduits en anglais. Pour Lacan, donc, il y a une opposition claire entre la vision qui est subjective, c'est moi qui dirige ma vision sur l'objet que j'ai envie de voir. Le regard, c'est quelque chose qui est objectif. C'est quelque chose à quoi je suis soumis. C'est moi-même qui se donne à voir, mais d'un point de vue qui m'échappe. Et Elizabeth Cowie, dans les années 90, c'est une des premières féministes à écrire sur cette différenciation-là. Là, je lis, je traduis en temps réel, là, mais elle dit, dans le fond, le regard, ce n'est pas la vision. Parce que voir relève simplement de l'acte d'une vision subjective, alors que le regard, c'est d'être posé soi-même dans un champ de vision. Et là, elle revient avec l'idée selon laquelle le plaisir dans le champ scopique, le plaisir de la pulsion scopique, c'est un plaisir qui est d'abord et avant tout passif. C'est le désir d'être vu beaucoup plus que le désir de voir. Et donc, l'idée du plaisir visuel, c'est, je crois, absolument en ce concept-là. Le plaisir visuel, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, qu'on n'expérimente absolument pas dans une série comme The Handmaid's Tale, bien au contraire, ni dans la lecture du roman, mais c'est quelque chose qui existe, le plaisir visuel, et dans un monde où nos productions culturelles sont prédominamment réalisées par des hommes, écrites par des hommes, bien, le plaisir visuel, il est beaucoup trop souvent conjugué selon un désir qui est masculin. Mais le regard, c'est ce qui va échapper à ce sentiment de plaisir visuel. Parce que finalement, l'idée de Lacan dans le séminaire 11, c'est que quand je me donne à voir un champ de vision, il y a toujours quelque chose qui résiste à ce désir de pouvoir que j'ai. Quand on voit, on veut contrôler par la vision, on veut pouvoir. Mais il y a toujours quelque chose qui va échapper à notre vision. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup critiqué la psychanalyse du cinéma des années 70, incluant l'article de Malvé, comme étant une théorie beaucoup plus foucauldienne que lacanienne, parce que dans le fond, ce qu'on décrit, notamment avec le fameux regard masculin, c'est une recherche de pouvoir. Mais cette recherche de pouvoir, elle est vouée à l'échec, du moins d'un point de vue psychanalytique, évidemment. Si on lit Foucault, on n'est pas nécessairement dans le même paradigme. Un des ouvrages les plus importants, puis j'achève, là, je vais en parler de Handmaid's Tale après, là, ce petit détour théorique, un des penseurs anglo-saxons à qui on doit, je crois, le plus dans notre compréhension plus contemporaine de Lacan dans les études cinématographiques et médiatiques contemporaines, c'est un ouvrage qui date de 2007 qui s'appelle The Real Gaze, donc le regard réel. Et il dit ceci, il dit que « The gaze is not the vehicle through which the subject masters the object, but a point in the other that resists the mastery of vision. » Donc, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui résiste. Toujours en parlant du regard, it is a blank spot in the subject's look, a blank spot that threatens the subject's sense of mastery in looking, because the subject cannot see it directly or successfully integrated into the rest of the visual field. Donc, dans le fond, ce que ça revient à dire, c'est que le plaisir visuel, il est limité. Et ça revient aussi, ben là, ça devient sémantique, mais ça revient à dire que dans le fond, ce qu'on appelle le regard masculin ou même le regard féminin, bien, c'est une méconception. On devrait plutôt parler de vision masculine ou de vision féminine. Évidemment, le trope prédominant, c'est la vision masculine. Et ce que nous offre The Handmaid's Tale, bien, c'est quelque chose de complètement ailleurs. Cette tension entre la vision et le regard, bien évidemment, elle est vraiment très présente dans la trame narrative de la série, parce que bon, on peut déjà, je veux dire, on peut voir venir à grands traits là, la critique facile du régime de Gilead, parce que dans le fond, c'est un État totalitaire qui repose sur une forme de patriarcat particulièrement tyrannique et fondamentaliste, fundamentaliste, en tout cas, désolé pour l'anglicisme. Dans Gilead, dans ce régime-là, voir au sens actif du terme, est synonyme de pouvoir, alors que d'être vu, d'être assujetti à la vision de l'autre, revient à la soumission la plus extrême. Ça, c'est une lecture facile et à la limite même foucauldienne. Mais cette tension, dans le fond, elle a un effet sur, pas juste sur les personnages, mais sur le spectateur, la spectatrice de la série, si on s'y arrête, mais aussi sur le lecteur, la lectrice. Parce que dans le fond, il y a des angles morts majeurs dans le propos. Il y a des angles morts aussi majeurs dans notre propre spectateur. Si on s'arrête un peu à ce qui se passe dans la trame narrative, bon, évidemment, le pouvoir dans Gilead repose sur la vision, même que, tu sais, ces agents secrets, là, on les appelle the eyes, les yeux. Tout le monde peut être un eye, on ne sait jamais c'est qui. Alors, c'est personne et tout le monde à la fois. On est un peu dans le panopticon ici. Tout le monde peut être un eye, et ça assure la discipline, le contrôle. Mais ce qui arrive, c'est que si on reprend l'analogie de Foucault, même le gardien de la tour de garde peut être lui-même assujetti au regard de The Eyes. Donc, ça vient un peu faire voler en éclats cette espèce de dichotomie de pouvoir entre celui qui détient le pouvoir et celui sur qui le pouvoir est exercé. Les leaders de Gilead, les commandants, bien, ils font face à l'échec de réaliser qu'eux-mêmes peuvent être assujettis à ces fameux yeux jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre dans différents contextes qui ne les avantagent pas. Alors, voir connote le pouvoir ici, et c'est pour ça que dans le régime de Gilead, les servantes écarlates, mais les femmes en général, mais surtout les servantes, n'ont pas le droit de voir. Elles portent ces fameuses wings qui bloquent leur vision périphérique. On leur apprend, tu sais, dès leur assimilation ou leur subjugation là, dans les Red Center à baisser, j'allais dire baisser le regard, mais c'est parce qu'il y a ici, il faut éviter le terme, c'est la vision qu'elle baisse. Et même pendant les fameuses sessions de viol ritualisé, là, ces cérémonies, il y a un enjeu qui revient à la dynamique des regards, la dynamique visuelle, puisque le commandant, à un moment donné, va enfreindre cette règle selon laquelle il n'est pas censé avoir de vision réciproque d'établi. Alors, toujours est-il que c'est ça, la vision connote le sentiment de pouvoir et non le pouvoir, parce que le pouvoir, il échappe toujours. Tantôt, je fais des parenthèses, on a parlé beaucoup de cette phrase latine, nolite te bastardes. Carbonorum, en tout cas, je m'excuse, je ne l'ai pas sous les yeux. C'est l'exemple parfait de la résistance au pouvoir, de dire qu'on va résister. Et cette résistance constitue l'angle mort dans le fonctionnement du régime totalitaire de Gilead, parce que même tous les régimes ont un angle mort, toutes les idéologies ont un angle mort, et surtout, d'abord et avant tout, ben, les régimes totalitaires, ils sont constitués fondamentalement sur des angles morts. Alors la vision, donc, connaît le pouvoir et en la retirant aux servantes, bien, on assure leur soumission. Mais en même temps, à travers l'insistance sur cette tension entre la vision et le regard, bien, The Handmaid's Tale se révèle comme finalement une narration extrêmement conceptuelle, puisque la dystopie au centre de ce monde qu'on décrit, bien, c'est une dystopie qui s'articule au-delà de ce qui peut être montré dans le champ visuel. Tout comme c'est le cas avec le fameux œil qu'on retire à Janine en termes de punition. Souvent, surtout dans les moments les plus cérémoniaux, cet œil mutilé va être caché par une patch, désolé pour le mot. Les éléments les plus traumatiques dans la dystopie qui nous est présentée sont souvent cachés dans les interstices du champ visuel, dans ce qui est un peu au-delà de notre vision. Et comme c'est pour ça, puis Hélène, je trouve ça vraiment intéressant, tantôt tu mentionnais comment c'est difficile, et je veux pas donner l'impression de quelqu'un qui se tape un marathon de Handmaid's Tale, parce que c'est vraiment un peu, je trouve que c'est extrêmement pénible comme visionnement, puis j'irais même jusqu'à dire, je voulais ouvrir avec ça, puis j'ai oublié, je fais une parenthèse. J'avais déjà lu, je me suis beaucoup intéressé, comme toi, Hélène, et comme plusieurs autres personnes ici, à l'adaptation de The Man in the High Castle, si je me permets un peu la parenthèse. Et dans The Man in the High Castle, je me souviens avoir lu un article qui mentionnait comment ce qui était plus fascinant avec cette télésérie-là, c'était la façon dont on montre l'aisance avec laquelle les Américains se sont adaptés au fascisme dans cet après-Deuxième Guerre mondiale-là. Mais on est dans l'Uchronie, puis il y a quelque chose d'un peu fascinant. Dans The Handmaid's Tale, je pense que plus le temps passe, plus ce visionnement devient encore plus insupportable qu'il pouvait l'être au départ, parce que ça fout la trouille, finalement, comme type de représentation dystopique. Et une des raisons pour ça, je crois, repose justement dans notre rapport au champ visuel. Nous, les spectateuristes, on porte nous-mêmes les fameux wings, on voit pas tout. Et le regard va venir se manifester dans cette tension entre ce qui est visible et ce qui est caché là, au-delà du champ visuel. Je suis conscient là, du temps qui passe, là, je vais m'arrêter à un seul exemple, peut-être le plus facile et le plus évident, c'est la cérémonie qui est filmée et qui est aussi montée d'une façon qui a amené plusieurs critiques à y voir l'idée justement d'un female gaze. Mais je pense qu'il faut être prudent avec l'utilisation de ce terme, encore une fois, parce que est-ce qu'on pourrait vraiment dire qu'il y a un plaisir visuel au féminin dans cette séquence-là? Je crois pas. Pas plus qu'il y a un plaisir visuel masculin. Alors, il faut extraire cette idée du gaze et de l'associer à un genre. Parce que le gaze, le regard, c'est quelque chose qui est pas genré, c'est ce qui nous échappe. Et il y a définitivement plein de trucs qui nous échappent dans, entre autres, la cérémonie, la façon que cette séquence est montée. La cérémonie est un pilier du fonctionnement de Gilead, mais on le sait, on en a parlé tantôt, en même temps, c'est un artifice, c'est un spectacle, c'est quelque chose qui est monté par les hommes juste pour pouvoir donner un sens religieux à quelque chose qui n'en a pas, aux yeux des épouses qu'ils considèrent être beaucoup plus dupes qu'elles ne le sont réellement. Alors, donc c'est un des piliers de la cérémonie de Gilead, mais c'est aussi un de ses aspects les plus traumatiques dans ce futur dystopique imaginé par Atwood. Dans un article là, dans le LA Times, Meredith Blake note comment cette scène, dans le fond, diverge complètement de nos représentations plus traditionnelles de la sexualité, même de scènes de viol et de scènes plus traumatiques, à cause de ce qu'on montre, mais surtout aussi à cause de ce qu'on montre pas. On montre très peu dans la scène. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est encore plus choquante, parce que c'est justement cette manifestation de ce qui dépasse notre maîtrise visuelle sur ce qui nous est montré. Alors, ça peut même donner à la scène un espèce de côté plus crude, sauf que c'est plutôt crude, crude, en tout cas, je sais pas comment traduire, c'est le contraire de crude, surtout quand on considère ce qui se cache dans les interstices. Et la cérémonie, elle révèle qu'il y a quelque chose qui nous est jamais vraiment montré. Il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé à la fin de la cérémonie, dans la première épisode de la première saison, quand c'est fini, on n'a rien vu, mais en même temps, là, tout à coup, on voit quelque chose qu'on voit jamais, c'est-à-dire le commandant qui se tourne et qui prend un mouchoir pour s'essuyer. C'est un détail, mais c'est quelque chose qui n'est jamais montré dans des représentations plus traditionnelles, plus mainstream là, de sexualité. Alors, je vais m'arrêter là sur cet exemple lui-même un peu troublant, là, mais je vais m'arrêter en disant que dans The Handmaid's Tale, on joue beaucoup justement sur cette tension entre ce qui nous est montré, ce qui échappe à notre vision et ce qui vient nous hanter en tant qu'angle mort. Et ouais, je vais m'arrêter là-dessus, j'allais partir sur l'autre chose, mais clairement, on dépasse le temps, donc voilà.
La première chose que j'ai trouvée vraiment intéressante dans ce que tu as développé, Louis-Paul, c'était cette question du regard de la vision et tu as fait allusion au panoptique. Et effectivement, dans la série et dans le roman aussi, hein, la question de The Eye, ça évoque tout de suite Big Brother is watching you, enfin, c'est cette idée d'un regard omniprésent. Mais tu disais, et tu as raison, que les commandants comme les gardiens du panoptique, d'une certaine façon, ils peuvent aussi être vus, ils sont aussi assujettis à ce regard de contrôle. Mais en même temps, moi, ça m'a fait penser à autre chose, c'est qu'il y a quand même une différence, c'est que dans le système du panoptique, les prisonniers et les prisonnières peuvent jamais savoir si ils sont regardés. Je pense que ça, c'est important aussi, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir si quelqu'un est en train de te regarder ou pas crée du coup
La
un
discipline.
système carcéral encore plus oppressant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
Absolument.
Donc ça c'était la première chose que j'ai trouvé vraiment important que tu parles de ça parce que je pense que c'est super important dans l'œuvre. Le male gaze, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un nouveau podcast sur la question parce que j'ai du mal à entendre qu'il n'y a pas de male gaze, tu vois? Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il me semble qu'introduire le female gaze pour dire qu'il n'y a pas de question genrée dans le gaze, je pense que ça demanderait à être un peu plus développé, quoi. Parce que j'ai un peu du mal à entendre ça. Et juste le dernier point, Sur les cérémonies, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, moi, je pense que, parce que c'est vraiment, moi, c'est les cérémonies qui sont les scènes les plus difficiles pour moi à regarder dans cette série, parce que tu as tout à fait raison, à mon avis, sur le fait que ce n'est pas des représentations de l'acte sexuel classique comme on peut en trouver dans d'autres types de films ou de séries, mais surtout, ce que moi, je trouve particulièrement dérangeant, c'est la présence active de l'épouse dans la cérémonie. C'est-à-dire qui... Là, il y a quelque chose de très particulier. Moi, je trouve que c'est ça le plus dérangeant dans ces cérémonies. C'est-à-dire que là, tu as la présence de la femme qui mime un plaisir sexuel alors qu'on est en train de violer une femme dont la tête repose entre ses jambes. Enfin, moi, pour moi,
C'est
ça,
next level, ça,
c'est
comme degré de
insupportable.
absolu. Ouais.
Voilà. C'était juste pour réagir à deux, trois aspects dans ce que tu as
Moi,
évoqué.
je vais juste apporter une précision parce que clairement, j'ai pas été clair. C'est pas de renier le constat de Mulvey, bien au contraire. Ce qu'il faut, je crois, remettre en question, c'est son emploi de termes. Parce que pour Mulvey, il y a un regard masculin qui donnerait lieu à un plaisir visuel qui, évidemment, dans notre culture, est prédominamment articulé ou conjugué au masculin. Sauf que d'utiliser le mot gaze, c'est ça qui porte à problème. C'est pas de dire que le phénomène n'existe pas, c'est de dire qu'il est mal nommé. On devrait parler de vision masculine et non de regard masculin. Je voulais juste être sûr que je suis bien compris là-dessus parce qu'évidemment, je suis pas du tout en train de renier cette évidence-là, mais c'est qu'on, je trouve, on a institutionnalisé une méconception en parlant de male gaze. Parce que le male gaze suppose un plaisir visuel. Puis là, quand on parle de female gaze, bien, on supposerait un plaisir visuel au féminin. Il existe ce plaisir visuel au féminin, puis on le renie beaucoup trop dans notre culture visuelle. Sauf que de l'associer au regard dans son sens psychanalytique, c'est ça qui ne marche pas.
Moi, j'aurais peut-être une petite question pour Louis-Paul et une petite pour Hélène. Je pense qu'il pourrait peut-être, ça a le mérite d'être justement des questions assez brèves, je pense. Je commencerai peut-être par Louis-Paul, étant donné qu'on parlait déjà de sa proposition. Ce qui est intéressant aussi, c'est la question du visible. Tu disais que les servantes étaient formées pour ne pas voir, mais elles sont aussi, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que déjà, le rouge a été choisi pour qu'elle soit visible de tous, tout le temps, en tout temps. Et aussi, elles sont forcées de regarder aussi certaines choses. Autant elles doivent regarder vers le bas pour montrer leur humilité, mais en fait, c'est pas tant pour pas voir que pour montrer leur humilité. Parce qu'elles sont aussi forcées de constamment assister aux cérémonies qui sont très, très visuelles. Et puis, elles jouent un rôle très important de, justement, d'être de témoins dans ces cérémonies. Elles sont toujours aux premières loges. Elles sont forcées de regarder des choses qui, ultimement, sur lesquelles elles n'ont aucun contrôle, en fait. Donc, d'une certaine façon, leur regard est même encore plus problématisé de cette façon-là.
Absolument, je trouve ça super intéressant parce que, dans le fond, je trouve que ça vient renforcer l'idée d'un rapport dichotomique là, au champ visuel parce que elles n'ont aucun pouvoir, si je reprends tes mots, là, sur ce qu'on leur donne à voir. Et c'est le principe fondamental de notre rapport actif au champ visuel, c'est qu'on peut pas tout voir, on peut pas tout contrôler, puis on a, tu sais, il y a cette perte de contrôle qui fait que, justement, c'est ce qui échappe au paradigme plus foucauldien, là, tu sais, que le gardien a une espèce de position, paraphrasé maître, de toute percevance. On ne peut jamais être tout percevant. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Puis ce qui nous échappe, bien, c'est le pouvoir. Puis dans le rapport des handmaids au champ visuel, je pense que tu as vraiment raison. Je n'avais pas pensé à ces détails-là. Elles sont confrontées à toujours regarder vers le mur, voir les laisser pendus dont elles doivent nettoyer le sang en vue d'une visite là, de dignitaires mexicains. Bon, bref.
Puis par rapport à Hélène, c'était par rapport au symbolique. Ce qui est intéressant avec Handmaid's Tale, c'est qu'on est, oui, dans le post-apo d'une certaine façon, mais pas tout à fait non plus. C'est-à-dire que le cataclysme est une révolution et non pas une catastrophe physique, c'est-à-dire une catastrophe naturelle ou une guerre. Et donc, il y a toujours le pays d'à côté qui, lui, est encore dans un régime totalement normal. Et c'est là, je trouve, qu'il apporte une nuance qui est intéressante parce que normalement, dans du pur post-apo, on serait devant une absence totale de signes. Mais là, on est devant un monde qui vit sans les signes, qui est constamment confronté au reste du monde qui, lui, continue sa vie signifiante, sémiotique, normale. Je trouve que c'est ces scènes-là qui sont les plus puissantes dans la série parce que c'est là qu'on voit les personnages de Gilead être en visite au Canada ou se réfugier au Canada. sont face à la violence, justement, de ces signes qui réapparaissent dans leur vie soudainement. Et puis même, on a une scène, je ne sais pas si tu l'as vu, je pense que ça l'est dans la saison 2, je pense, où on a Serena qui visite le Canada. C'est bien avant qu'elle se réfugie, là, donc c'est vraiment au moment où elle est en visite diplomatique avec Fred. Et puis, on va lui remettre un plan avec des symboles visuels pour respecter sa culture de ne pas lire. Alors qu'elle est très connue, Serena, pour avoir écrit des livres. Et donc, il y a une espèce de rapport au symbolique comme ça, à la lecture en particulier, au texte écrit, qui est assez intéressant, surtout à cause du contraste.
Oui, tout à fait. Tu sais, j'ai une acception du post-cataclysmique un peu large. Tu vois, moi, The Leftovers, je considère que c'est une série post-cataclysmique parce qu'il y a une rupture, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une, il y a un basculement. Mais effectivement, c'est pas une série post-cataclysmique au sens de la fin du monde, une crise écologique. Et t'as raison, on a systématiquement dans la série les séquences qui se passent au Canada qui apportent un autre point de vue, un autre regard extérieur et qui montrent aussi qu'effectivement, le monde n'a pas évolué uniformément dans le sens de ce qui se passe à Gilead. Mais ça, ce que tu disais m'a fait penser aussi à une scène que j'avais trouvée particulièrement, je ne sais pas comment la qualifier, je ne sais pas s'il faut la qualifier, mais tu sais, c'est cette scène dans les séquences qui se passent au Canada où d'un seul coup, je ne sais plus par quel moyen, mais il y a toute une série de lettres écrites par des servantes qui arrivent d'un seul coup là-bas et qui sont... Enfin, je me souviens plus exactement comment c'est présenté dans l'épisode, mais d'un seul coup, elles sont toutes déballées, elles arrivent toutes d'un coup, quoi. Et t'as cette espèce de flot d'écrits, de signes, de lettres, de textes qui sont réintroduites d'un seul coup et qui donnent, ouais, peut-être, enfin, c'est un sentiment très positif, quoi. D'un seul coup, il y a une bouffée de bonheur où tu sens que le signe, la lettre et l'expression ont quand même réussi à passer la frontière et à s'exprimer, quoi.
C'est même ce qui fait échec au séjour diplomatique de
Oui, c'est
Fred, en
ça.
fait.
Pour revoir la suite de la saison, si je m'y mets, il faudra que je re-regarde le début.
Oui,
J'ai oublié
c'est
pas
ce que
mal.
j'ai dû faire aussi, ouais. Parce que moi, je l'ai fait ce marathon vraiment très, très, très difficile. Manon l'a vu pendant les semaines, les dernières semaines, j'étais toujours, ah non, mais c'est dur à tous les jours.
Ah oui,
Hein.
vous avez
J'ai
dû
trouvé ça
décliner.
fascinant de le voir d'un coup en même temps. Oh mon Dieu, que c'est dur à écouter d'un coup, ouais.
Moi non plus, j'ai pas fini la série parce que je trouve ça tellement. Mais pour une série si esthétique, c'est tellement difficile à regarder. C'est là le paradoxe. T'sais. Puis il y a tellement de signes visuels super intéressants. T'sais. Mettons le monument Washington transformé en croix, puis des choses qui donnent comme. En fait, qui donne des éléments visuels vraiment intéressants à interpréter, mais en même temps, dans un contexte qui fait que notre psyché est complètement manipulée ou complètement chamboulée, là, c'est vraiment particulier comme expérience.
Oui, absolument. Mais...
Je m'intéresse beaucoup à la question de la crise, notamment dans ma thèse, et justement, cette notion de fiction post-cataclysmique, ça m'a fait penser au fait de la notion de crise comme période où qui faisait sens avant ne fait plus sens et il faut retrouver et chercher des solutions et finalement resémiotiser effectivement le monde. Et justement, cette notion de fragment aussi, je l'ai trouvée très évocatrice et ça m'a fait penser au livre Le désordre, éloge du mouvement de Georges Balandier qui parle, lui, non pas de fragments mais de décombres. Et il dit effectivement qu'il y a un refus des représentations univoques du monde, des visions totalisantes et qu'en fait, dans ces décombres, il n'y a plus de logique d'ensemble à trouver. Et je trouve que c'est très parlant. Donc, merci beaucoup pour tous ces éléments de lecture. Ça me sera très utile pour mon travail de thèse notamment.
Hélène pourra t'en parler pendant des heures comme moi, mais la série Flash Forward, avec la notion de mosaïque et de reconstruction d'une image cohérente du futur ou du présent à partir de fragments, mais de décombres aussi. Enfin, je veux dire, le décombre, ça va plus dans le sens du post-apo, mais c'est des aspects qui sont très intéressants, qui rejoignent aussi ce que Louis-Paul a dit sur le visuel.
Belle référence que Flash Forward, où on a le même Joseph Fiennes, rôle très différent.
Oui, c'est vrai. Je pense que ça serait une bonne conclusion si ça vous convient.
Ben, merci beaucoup. Je tenais vraiment à vous remercier d'avoir accepté mon invitation et aussi vous remercier pour vos contributions à cet échange qui était très stimulant et qui pourrait encore se poursuivre dans d'autres contextes et dans d'autres épisodes comme on en a fait mention à plusieurs reprises. Merci encore et à très bientôt, j'espère.
Merci.
Cet épisode de podcast a bénéficié d'une aide de l'État français gérée par l'Agence nationale de la recherche au titre du projet Investissement d'avenir Lorraine Université d'Excellence qui m'a permis de réaliser ce séjour en laboratoire à l'Université du Québec à Montréal.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.